bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Gadeboudali.
Bonjour à tous.
Agnès Surstel. Daniel
Mandra. Bonjour Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Bastureau. Et nos invités sont Kairon et André Dussolier. Ravi de vous accueillir pour ce petit bijou qu'est ce film que j'ai adoré, Mauvaise Herbe. Ça sort ce mercredi au cinéma. C'est une semaine assez dense, parce que nous trois, Aurien est passé là à la télé quand, la semaine dernière.
Jeudi.
Ah ouais, vous avez live tweeté. D'ailleurs, c'était incroyable.
Ouais.
Mais il était collé à son.
Mais non, mais c'est important. C'est la première diffusion en clair. On voulait savoir ce que le public en pensait. Donc c'est, on a reçu des messages incroyables. Ouais, c'est vraiment
que du bien. Des bonnes vibrations. On va parler de Mauvaise Herbe. Merci André d'être fidèle à cette émission.
Dans un nouvel endroit, une nouvelle maison.
Ouais. Également, tout est frais, tout est propre, tout est beau. Si je retrouve mes documents, je vais commencer enfin à poser la question. On interroge nos camarades sur vos carrières, Kairon, André Dussolier, pour voir s'ils vous connaissent ou pas, s'ils ont travaillé ou pas. J'adore. À quelle occasion André Dussolier s'est-il rebellé devant son père pour la toute première fois?
Ah, Il n'a pas été à la messe.
Exactement.
J'ai vu la réponse tout à l'heure, pour ça.
C'est vrai? Ouais. Bah, c'est bien. En même temps, c'est bien triché, mais de savoir à quel moment s'en servir.
On a trop tôt.
Voilà, justement. Maintenant, c'est bon, allez-y.
C'était un véritable signe de rébellion de dire je vais pas à la messe avec la famille.
Énorme. La famille était tellement catholique et vraiment pratiquante. Et donc, en effet, j'étais vraiment le vilain petit canard à cette époque-là. Mais bon, il y avait plus de choses qui se jouaient dans ce moment-là. Sans doute. Une rupture de cordon.
Vous dites avec le triangle familial.
Oui, sans doute que ça. Voilà, c'était une manière de manifester son indépendance.
Pardon, vous avez quel âge à ce moment-là?
J'étais quand même pas tout jeune.
J'avais 28 ans.
3 ans et demi.
28 ans.
Non, j'avais 17 ans. Ah mais oui. Bon, c'était peut-être l'âge où ça se fait. Mais j'étais aidé parce que j'étais en pleine étude. J'avais découvert, en rencontré un prof de philo et Sartre. Donc, évidemment, tout d'un coup, le bon Dieu.
Jean-Paul, c'est moi.
Faisait
hein,
pas
je
trop
rappelle.
Le poids. Dans les cours de philosophie.
Oui, ah non, mais il faut expliquer. Oui, alors, t'es obligé d'expliquer.
J'ai un petit côté Jean-Paul, c'est mon petit nom, Jean-Paul, maintenant, depuis vendredi. C'est comme ça que m'appellent les gens. Parce que j'ai une petite coquetterie dans l'œil, selon Laurent Deutsch, comme Jean-Paul Sartre.
Voilà, Jean-Paul Sartre.
Guillaume Pépi.
Jean-Paul Sartre a. Enfin, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a comparé
les gens séduisants.
Non, non.
Laurent Deutsch, pas du tout. Laurent Deutsch a regardé Leïla en lui disant vous ressemblez à Jean-Paul Sartre.
Ouais.
C'est fou.
Mais c'est gentil, ça, ou pas du tout?
C'est gentil pour Jean-Paul Sartre. Comme on dit, comme disait Boris Vian, c'est mais ça. Enfin non, pour Leïla.
Moi, j'ai
pas...
aucune ref, ni Boris Vian, ni Jean-Paul Sartre. Je vous regarde avec beaucoup de fascination.
Oui, oui, on se calme, Kairon. Justement, Kairon, son papa a un bac plus 9, sa maman a un bac plus 7, et Kairon
n'a pas le bac.
Oui. Il a
n'a
bac
pas
moins
passé,
1.
Il n'a pas moins passé. 1.
Exactement.
J'ai bac moins 1, c'est vrai.
Bac moins 1.
Ah ouais.
Ouais, en fait, j'étais déjà artiste à l'époque du lycée. Et j'avais je faisais du rap à l'époque, et je devais donner un concert à Cannes. Et donc j'avais la philo, c'était lundi.
C'était quoi pour le MIDEM, c'était pour
au
mois de juin, donc au moment du bac.
Au moment du bac. Okay. Je me rappelle que le lundi il y avait philo, mardi il y avait l'oral d'anglais, et mercredi il y avait les autres matières. Et donc moi j'ai passé la philo et je comptais aller mardi faire mon concert et revenir le lendemain. Et on m'a dit que quand tu ratais une seule épreuve, c'était éliminatoire.
Ouais.
Donc j'ai fait que philo. Et le mardi, j'étais directement à Cannes et puis je suis resté à Cannes pour le reste des... Mes parents étaient en vacances au Vietnam.
Ça les a énervés ou pas?
Ouais, en fait, quand ils sont rentrés, j'ai pas osé leur dire que j'avais pas passé le bac. Donc, jusqu'au moment des résultats, ils croyaient que j'avais le bac. Et ils pensaient que j'allais avoir une mention et tout. Donc, c'était gênant parce qu'ils parlaient avec leurs collègues. Tu penses ta fille, qu'est-ce qu'elle va avoir? Nous, c'est sûr, elle va avoir au moins assez bien. Si c'est très bien, minimum. Enfin, et donc, c'est très gênant parce que jusqu'au jour des annonces, j'ai menti en faisant croire que j'avais passé le bac.
Et là?
Bah là, j'ai pris des coups assez sévères et secs, des coups pointus, des coups dans des zones qui font mal au niveau de la clavicule, au niveau des tempes. Voilà. Non, ils m'ont jamais frappé. Non, mais ils étaient très déçus. Mon père, quand il est.
Mais ils m'ont jamais frappé.
Jamais. Mon père, quand il est déçu, il regarde comme ça et puis fait.
Il détourne le
et
regard.
Il part et il vous parle plus pendant deux mois.
C'est très radiophonique ce que vous venez de faire.
Ouais, parce que personne ne peut comprendre. Mais c'est vraiment. Je vous jure.
Non, ça veut donc dire c'est la déception.
Ah ouais, c'est suprême.
C'est le mépris.
De voir mon père, c'est un truc de ouf. Je préférais qu'il me frappe plutôt que.
Ouais. Bah non, mais désolé pour vous, c'était pas le cas.
Ah ouais, pas eu de
concernant André Dussolier, à la suite de quelle vexation André a-t-il décidé d'arrêter de jouer au foot?
C'est pris un petit pont.
C'est pas loin.
Un grand pont.
Non, mais c'est pas loin.
Moyen.
Non,
il était sur le banc, il jouait pas.
Non, il était jamais choisi.
Il s'est fait dribbler par un enfant.
Pas la balle.
Alors, lequel?
Le sien.
Exactement.
Ah ouais.
Ça vous êtes rendu compte que votre fils jouait mieux que vous?
Oui, c'est-à-dire que j'ai maintenu le niveau quand même il a assez longtemps. Et puis à un moment donné, il m'a fait un petit pont, un grand pont. Enfin, il a eu, et c'était terminé. J'ai pas fait mon jubilé, quoi. Ah oui, j'ai arrêté de dire.
Rappelons qu'à l'époque, votre fils avait 2 ans. Encore plus humiliant.
Ça fait très longtemps.
Quelle est l'une des raisons pour laquelle Kéron laisse toujours une grosse part d'improvisation dans ses spectacles? Il a une bonne raison.
Il a un problème de mémoire.
Exactement, Agnès. Non, c'est pardon, Agnès.
Non, mais j'ai pas lutté.
Il gagne.
Donne-lui le point, si tu veux.
Calme-toi, Jean-Paul.
Je fais la gueule. Je participerai plus.
Je partage avec toi.
Non, je veux gagner ou rien.
J'ai une mémoire excellente sur le très court terme. Genre sur les 40 secondes qui viennent de précéder. Mais non, mais c'est pas une vanne. J'ai des problèmes de concentration. Ils sont extraordinaires. Je le raconte souvent, cette anecdote. J'ai mis 8 ans pour avoir mon permis de conduire. J'ai passé le code 4 fois. Et c'est pas parce que j'avais faux, c'est parce que je répondais pas à 3-4 questions. Et il y a une voiture qui question 4, est-ce
oui,
que...
Vous pensiez, vous voyez une diapo d'une voiture et
voilà,
vous pensez
et ça me rappelait un truc et je pensais à cette histoire-là ou à autre chose. Et quand je revenais, j'avais raté 3-4 questions.
Mais pardon, ça s'appelle rêveur, ça s'appelle pas problème de mémoire. Est-ce que vous seriez capable d'être sur scène, de jouer un Goldoni, un Fedo, un Molière?
Un quoi?
Il a oublié.
Non, c'est impossible d'apprendre
les
par cœur.
Les rappeurs, normalement, ils ont une très bonne
mais
mémoire.
Moi, c'est par rapport à l'oreille, c'est par rapport à la musique. Ça veut dire que même pour apprendre des premiers textes.
Mais ça, c'est un moyen mémotechnique.
Oui, mais non, mais je n'arrive pas à me rappeler de. Mon spectacle est basé sur ça parce que j'oubliais mes textes. J'oubliais, et puis, en fait, je suis surtout très facilement. Comment on appelle ça quand Ah, c'est quoi le terme?
Idiot?
Non, pas idiot, presque! Presque!
Émotif!
Non, quand tu peux vite te faire.
Distrait, quoi.
Distrait, je suis très distrait. Waouh, j'ai galéré sur un mot comme distrait. Ouais. Vous imaginez la mémoire nulle que j'ai.
C'est gros problème de
moi, j'ai de la place pour 10 trucs dans ma vie, dans ma tête. Il y a 10 trucs.
Ça va être super long jusqu'à midi.
Distrayable. Ouais. Distrayable, on dit distrayable. Ouais. Et donc, quand je suis sur scène et que quelqu'un parle à quelqu'un dans le public, je dis pardon, excuse-moi, de quoi vous parlez? Parce que ça me perturbe vraiment, c'est pas une vanne. J'ai besoin
c'est
que.
Dingue, ça. Bah, c'est-à-dire que même quand vous êtes sur scène, vous êtes troublé par ce qui se passe
bien
dans
sûr,
la salle?
Bien sûr, très régulièrement. C'est pour ça que je demande aux gens de qu'est-ce que vous dites là, pardon? Qu'est-ce que tu fais? Parce que on est en train
Il paraît que vous ne supportez pas les gens qui gardent des places.
Ah, ça me rend ouf. En fait, je fais un truc dans mon spectacle, parce que dans tous les spectacles d'humour, les meilleures places sont pour ceux qui ont payé le plus cher. Donc on favorise ceux qui ont le plus d'argent. Mmh. Moi je mets toutes les places au même prix et je favorise ceux qui viennent les premiers. Donc ceux qui font la queue avant tout le monde, ceux qui
comme un concert rock quoi.
Même
en fait,
le
ils
plus,
ils
voilà.
arrivent au premier rang.
C'est eux qui choisissent leur place. Donc quelqu'un qui vient, qui réserve sa place, qui réserve les 8 rangs, alors qu'il y a d'autres gens qui galèrent, ouais j'aime pas trop. Mais je suis sympa, sinon.
Oui.
J'ai plein de bon côté.
À quoi André Dussollier est-il allergique?
Au gluten?
Non.
Aux hosties?
Non.
Au lactose?
Ah. Non. Alors c'est pas une allergie.
Au foot?
C'est pas une allergie physique.
Au con?
C'est, on s'approche.
Calme-toi, ouais. Jean-Paul.
À quoi est-il allergique? Et d'ailleurs, il y a eu un. Ah non, je vais pas dire.
Aux fraises?
Non,
non, c'est pas
médical. C'est pas médical.
Ah, la mauvaise foi.
Oui, aux menteurs, aux vulgaires.
Non, c'est plus mécanique que ça, c'est plus quotidien presque que ça.
Aux gens qui sentent pas bon.
Non.
C'est bah, non. Aux gens qui sentent bon.
C'est plus quotidien, attends.
Vous allez vous sentir bien.
Aux gens qui regardent pas dans les yeux, aux gens qui mâchent les serpents à la main.
Parce que j'arrive pas à me souvenir.
Les gens qui mettent la langue.
Des pieds.
Impoli, impolitesse.
C'est un légume, c'est un légume, légume. Non,
c'est pas un légume, c'est un
légume.
C'est un problème d'organisation personnelle et de gestion de sa vie.
Les impôts, l'administration.
Exactement.
Ah, bah oui,
non, parce qu'il
n'est
pas donné son argent, c'est tout.
Mais non, pas du tout, mon père était percepteur.
Je rigole.
Mais oui,
c'est ça qui fout. C'est que vos parents travaillaient aux impôts.
Oui, ils ne parlaient que de chiffres tout le temps, toute la journée.
Ça t'a calmé,
oui.
Et vous n'aimez pas ça.
Mais ça veut dire content, hein. T'es très gentil, hein, mais.
J'ai fait l'allergie, c'est vrai.
T'aimes pas les chiffres?
Non, j'aime pas les chiffres.
Comme toi, pareil.
Mais
ah oui, la même.
C'était quel ministre qui s'est déclaré malade au point de ne pas déclarer ses impôts?
Tévenou,
c'est ça. Il était député, il n'était pas ministre, c'est ça.
Il était, secrétaire d'État. Il n'avait pas un.
Enfin, il a dit je suis allergique au papier. Donc,
phobie administrative.
Donc je ne déclare pas mes impôts.
Ouais,
pas
non.
Vous!
Ah non, je suis obligé, parce que alors là, ce serait une catastrophe. Ouais,
André, ce qu'il paye, il a créé la création de 3 hôpitaux en France, faut le savoir. C'est mon René, je dis qu'il est blindé à chaque fois qu'on se voit.
Tant mieux. Et alors donc, vous confiez ça à votre épouse, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe autour
c'est
de vous?
C'est quelqu'un qui s'en occupe, non, oui, mais oui, non, un professionnel, enfin vraiment dans la lignée directe des parents, quoi, vraiment, c'est un percepteur, voilà, non, qui connaît bien les chiffres.
Mais vous avez autant d'argent que ça?
Il est blindé, André.
Mais non, c'est pour que les calculs soient justes, c'est tout, hein, c'est pas...
Non, mais quel que soit le montant, vous ne voulez pas vous occuper de ça?
Ben non.
Je peux pas, j'ai un blocage.
Le ton sur lequel il me le dit, j'ai déjà de la peine.
Sincèrement, c'est même pas pour faire une promo déguisée par rapport au film. Sincèrement, moi j'ai une peur maladive des chiffres. Il y a des profs de maths qui m'ont dégoûté des chiffres. Là, si vous me dites 9 x 15, je vais me bloquer et je vais commencer à trembler.
135.
Je veux pas savoir. Et quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, quand on m'interrogeait pour aller faire des calculs au tableau, je préférais faire n'importe quoi et me faire virer de la salle plutôt que d'aller au tableau faire un calcul.
Vous, c'est un problème de chiffres.
Moi, j'ai des lacunes en mathématiques et ça m'handicape. Et donc, je comprends. C'est peut-être pas aussi grave que ça, André. Soutiens-moi, André, c'est maintenant.
Je me demande, mercredi, le film sort, tu vas pas t'occuper des chiffres.
Non,
quoi,
jamais.
T'en fous.
Non, jamais.
D'accord. Voilà. Enfin,
sauf s'ils sont bons.
Et pour en revenir à Thévenoud, il a été ministre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été obligé de démissionner à cause de ce problème de déclaration.
Député, secrétaire d'État.
Allez, dernière question concernant Kéron, et qui a été éducateur. Il a inventé une méthode. Mais une méthode pourquoi?
Théâtre,
pour faire venir les jeunes,
pour, pas pour la pour mémoire
faire,
en tout
pour
cas.
Les faire rester.
Oui, c'est ça.
C'est ça, pour pas que les gamins décrochent au collège. Et là, on en arrive à la mauvaise herbe, non?
Magnifique transition.
Non, mais sans vous dites, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une méthode. Cette méthode est celle du film ou c'est autre chose?
Non, Non, pas du tout. Je m'enlise. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a mis au point à Pierre Fitursen une méthode pour aider les gamins, mais c'est pas explicable en 2 secondes. On intègre les parents, on intègre les profs. Il y a des professionnels qui viennent travailler avec les enfants, chacun sur sa discipline, mais on axe le tout sur la discussion, sur le dialogue, sur le théâtre.
On n'est pas loin de la toile de fond de Mauvaise Herbe.
C'est ça. J'ai raconté cette méthode dans Mauvaise Herbe, mais les méthodes de mon personnage ne sont pas les mêmes que les miennes. Par contre, grande fierté, c'est qu'après 4 années, le projet a été adapté dans plein d'écoles en France.
Et ce projet a un nom?
Le fil continue.
D'accord, le fil continue.
Ouais, c'est le nom qu'on avait trouvé. Ouais.
Et c'est vous qui l'aviez initié?
Moi j'ai pas initié. Moi je faisais partie des gens qui travaillaient. Moi j'étais le fil rouge entre les équipes du matin et l'après-midi. C'est moi qui passais le plus de temps avec les gamins. Mais il y avait plein de professionnels. Il y avait un psychologue qui venait, il y avait le PRE qui venait, il y avait la médiation, il y avait la bibliothécaire de la ville qui venait. Il y avait plein de gens qui aidaient. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est mon père qui a initié ce truc-là à Pierre Fit. C'est lui qui a ramené ça.
Mais vous aviez suggéré la contrainte physique.
Moi, j'étais pour moi tout ce qui est souplexe arrière. J'étais vraiment pour au niveau du cou du lapin, tout ça.
Il a le physique.
Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais agriculteurs.
Cultivateurs.
C'est la phrase de Victor Hugo qui est en exergue du film et qui sert de rap à André Dussolier sur la fin du générique de fin.
Très bien posé. Victor dans le film. Hein,
exactement.
Simplement.
Exactement.
Modestement.
Alors, comment est venu l'idée de ce film, Kéron, c'est votre deuxième long métrage.
Je vais partir de quelque chose de sincère En fait, j'aime bien le début de mes phrases, j'aime pas les fins. Je vais faire que le début, tu finis, André.
Ouais.
Je voulais partir de quelque chose de sincère pour.
Pourquoi j'ai voulu faire ce film, André?
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimiez N'oubliez pas les paroles. C'est pareil, c'est un jeu.
Pour témoigner, mais de quoi, André? Témoigner de quoi?
Pour témoigner de ton expérience.
De mon expérience. Il a raison. Témoigner de mon expérience. J'ai vécu un truc fou avec ces gamins pendant 4 ans. Ils m'ont tellement appris. Et je voulais absolument leur rendre hommage. Et la phrase de Victor Hugo, pour moi, elle est fantastique, elle est fascinante et résume exactement ce que je pense. Donc, je suis parti de mon sentiment de fraude. Parce que moi, quand j'ai bossé avec les gamins, j'étais pas éducateur, j'avais pas l'expérience. Je faisais du théâtre, j'étais humoriste. On est venu me chercher pour ça. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, il y avait 1000 méthodes pour arriver au même point. Et je voulais absolument partager ça avec le public. Les enfants, les gamins sont fascinants. J'ai vu des gamins qui, dans des difficultés folles, on savait plus quoi faire d'eux en conseil de classe. Et j'ai vu des miracles. Je les ai vus s'en sortir et devenir des grands quelqu'un.
Alors le point de départ quand même, c'est vous, André Dussolier, votre personnage doit absolument trouver un éducateur qui va s'occuper de 6 enfants qui, pendant les vacances scolaires, sont en difficulté et...
Ouais, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés. Donc évidemment, ça leur dit rien de retourner à l'école en plein été.
Non, c'est une double peine pour eux.
Donc il faut que je trouve quelqu'un et je trouve aucun éducateur pour... Donc tout d'un coup, par le biais d'une rencontre avec le personnage que joue Catherine Deneuve, je tombe sur cet Olybrius qui est un petit filou quand même au départ et puis qui, en effet, va avoir des méthodes.
Oh bah Catherine, oui, c'est une petite arnaque à deux.
Catherine Deneuve aussi, oui.
Oui, un peu, oui, voilà, elle est complice parce qu'elle veut l'aider. Donc, du coup, je suis la victime de ces deux-là. Et puis, tout d'un coup, chemin faisant, je vais devenir celui qui va trouver, comment dire, la solution pour sortir ces enfants abandonnés de cet isolement et puis de l'abandon des autres éducateurs. Donc lui, il est là, il sait leur parler et c'est là que le film commence et débute. C'est-à-dire qu'on voit que tout d'un coup, il a le code, le langage, les méthodes, la manière d'être qui fait qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace que toutes les méthodes qu'on pourrait avoir, nous, éducateur à l'ancienne. Je me trompe pas, Kevin ?
Non, c'est tout, tu dis mieux que tu vends mieux le film que moi et c'est très frustrant pour moi.
Alors, c'est magnifique. Il y a en effet une belle tête d'affiche avec Catherine Deneuve, André Dussollier, Yvou Caron. Il y a les enfants qui sont juste dingues. Ouais. Louison Blivet, Adil Déby, Aku Benosman, Youssouf Wag. Ouais, il faut dire Wagé.
C'est comme ça que lui le dit en tout cas.
D'accord, donc il y a des gens
qui sont
ça.
Raison,
Wassima Azrouki. Qui
ouais.
Ça va
c'est vous parfait.
Dites, hein, Joseph Jovanovic. Voilà. Ce sont et puis il y a Leïla Boumediane qui est une avocate.
Ouais, qui est une avocate.
C'est ça dont vous tombez
follement amoureux.
Amoureux pendant le film.
Il y a le Blanc le Noir aussi, Medine et Fianso. Voilà, comme ça on a cité presque tout le monde.
Ingrid Donadieu qui joue.
Faut pas dire qui qu'elle joue, ouais. Mais effectivement, elle est démente aussi. Ingrid.
Qui joue une bonne sœur.
Voilà, fantastique.
Qui va s'occuper d'un petit garçon, mais on comprend que le petit garçon.
Voilà. C'est André. Ouais. Ouais, pardon, oui, effectivement, c'est moi.
Bien sûr. C'est encore pour un petit garçon, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre les blessures de l'enfance de cet éducateur ou de ce nouveau pseudo-éducateur improvisé.
Ouais, on apprend, on apprend d'où il vient, on apprend son background au fur et à mesure. Ça, je trouvais ça intéressant aussi de.
Qui est la guerre. C'est un enfant de la guerre.
Ouais, pas forcément.
De la rue.
Ouais, en fait, il y a un truc quand on arrive en France, quand on est immigré, qu'on arrive en France, souvent les diplômes ne sont pas reconnus. Et j'étais tombé sur un chauffeur de taxi qui était chirurgien dans son pays d'origine. Ça m'avait choqué. Et
qu'il ne soit plus chirurgien, vous voulez dire qu'il soit chauffeur de taxi.
Qu'il soit chauffeur de taxi en France, son diplôme n'avait pas été accepté, etc.
Non, si vous dites ça m'a choqué qu'il soit chauffeur de taxi, vous allez avoir des gros.
Non, ça m'a choqué, mais non, pas du tout.
Non, on est sur Inter, pas sur AMC, ça va.
Ce qui vous a choqué, c'est qu'un chirurgien ne puisse plus exercer son métier.
Alors qu'il sait ouvrir un corps et le refermer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Non, mais c'est dingue.
C'est possible quand tu conduis une bagnole aussi.
Non, mais voilà,
pas les refermer, ils savent ouvrir.
Et du coup, je m'étais dit, c'est intéressant de raconter d'où viennent les gens, qu'on se voit différemment les uns les autres. Donc, je voulais raconter d'où vient mon personnage pour encore mieux lui faire comprendre. J'ai pas trop spoilé. Cette phrase ne s'arrêtera jamais.
Très
le
bien.
Film est génial.
Mais on va continuer d'en parler. On va continuer d'en parler parce que le film est génial, oui, parce qu'il est d'abord, il est émouvant, il est utile,
il est
drôle.
Drôle.
Il y a des vannes dinguissimes. Il y a un rapport là. L'autodérision qu'a accepté Catherine Deneuve. Ouais. Pardon, mais plus qu'André, André, il a le rôle du beau gosse. Hein,
donc et même il flambe.
Il est beau gosse, André.
Il flambe au niveau physique.
Ouais.
Il y a une course poursuite. On dit pas
absolument.
Plus.
Absolument. Ouais, wow. Il cartonne. Alors que Catherine, elle prend des vannes. Hein, elle prend des vannes en disant, vous la traitez de vieille.
Elle s'appelle Monique. Voilà.
Déjà. C'est
un gimmick de blague, Monique, nécessairement.
Drôle. Mais oui, mais c'était marrant. C'était marrant de jouer avec son image et de l'écorner un peu. Elle a joué le jeu et c'était très drôle pour nous aussi sur le tournage. Et je suis très fier parce que les gens qui aiment Catherine Deneuve, ouais. Là, on a fait 55 villes en avant-première. Et à chaque fois, à la fin, il y a toujours 2-3 personnes qui disent on la suit depuis. 400 ans et on a vu tous ces films et c'est la première fois qu'on la voit comme ça. Ouais, et dit c'est la première fois qu'on la voit comme ça, on la redécouvre, donc nous on est très très flattés d'avoir pu participer à ça.
C'est une réussite. Le film sortira ce mercredi et ça va être un succès, Tom Ville,
ouais,
on est d'accord.
Ça va être un succès. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on pense que les mauvaises herbes c'est les jeunes. Un peu, mais c'est surtout les vieux qui sont les mauvaises herbes dans le film. Je peux rien raconter pour pas spoiler, mais Catherine Deneuve, elle fait des conneries pour arriver à ses fins, c'est fou! Particulièrement au supermarché. Non, mais c'est vrai qu'on y repense, tout ça, c'est de la faute des vieux. D'ailleurs, on va faire une petite rectification tout de suite pour pas perdre notre auditorat. Vieux, ça veut rien dire. C'est pas l'âge, ni la couleur des cheveux, ou le nombre de cheveux, ou le chiffre de cheveux, ça va, Daniel? Mais juste, je pense que tu deviens vieux le jour où, pour ton anniversaire, en cadeau, on t'offre une station météo, et toi, t'es content.
Ah oui!
Parce que ça veut dire que si ton seul sujet de préoccupation, c'est la météo, ça veut dire que les jours sont comptés. Non mais c'est vrai, France 3, chaîne de vieux. Mais si tu penses que France 3, ça bouge et qu'on se moque de cette chaîne à tort, c'est que t'es vieux, putain. Ils font une émission d'une heure tous les jours sur la météo. Mais pourquoi faire? C'est quand même fou de faire une émission d'une heure sur la météo pour des gens qui sortent plus. Alors, quel temps va-t-il faire pour les autres? Non mais c'est vrai, alors... On parle pas assez du problème des vieux, et puis on n'en peut plus des vieux qui viennent faire leurs courses le samedi. T'as toute la semaine pour faire tes courses, tu peux y aller à 10h30 un mardi où il y a personne, un jeudi à 15h où il y a personne. Mais non, on va faire croire qu'on est débordé comme tout le monde, et ouh, soit t'es vieux, soit t'es con, mais c'est pas compliqué de décaler une séance de kiné ou de sauter à le club de marche. Non mais et puis les vieux, ils sont fourbes. Moi gamin, mes grands-parents pour Noël ou les anniversaires, jamais de cadeaux. Non, de l'argent en liquide, soi-disant pour que tu choisisses ce que tu veux, mais dis-le, c'est juste que t'avais la flemme d'aller chez Jouet Club. Parce que tiens, c'est beaucoup plus perfide que ça, tiens, regarde, tiens de l'argent pour comme ça tu pourras t'acheter ta PlayStation. Ouais, avec 40 euros, t'en déconnes. Si tu sais ce que je veux, c'est-à-dire une PlayStation, va me l'acheter, mais ça coûte 300 euros. Pour 40 euros, j'ai un jeu et encore d'occasion. Puis les vieux, ils ont toujours des phrases toutes faites, tu sais, ils se la racontent. Et moi, de mon temps, on lisait des livres. Ouais, mais l'iPad n'existait pas. Sinon, t'aurais fait comme tout le monde, je veux dire. Non, mais en vrai, en 1850, tu aurais eu Tinder, Baudelaire, jamais il les aurait écrit, les fleurs du mal. Hein, il serait passé à autre chose, avec là qu'on enchaîne. Moi, tu sais, les phrases toutes faites. Et moi, j'ai fait mon service militaire. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Déjà, t'as fait ton service militaire parce que t'as pas réussi à te faire réformer P4, et moi je joue à Call of Duty, donc ça compte ou pas? Et puis t'as pris une balle dans le cul avec ton propre fusil en épluchant une patate, donc on va se détendre. T'as fait ton service militaire peut-être, mais à la foire du trône t'as jamais chopé une peluche au stand de carabine, donc, hein, on va se calmer. Et moi ma grand-mère qui me disait, ah, de mon temps il y avait des vraies musiques, pas votre musique de sauvage. La vraie musique, alors pourquoi t'écoutes Frédéric François et Vincent Niclot alors? Non mais là. Donc la justice est rétablie aussi grâce au film, hein, les mauvaises herbes sont pas toujours celles qu'on croit, et puis n'oublions jamais que dans quelques années ça sera nous les vieux cons, et moi aussi j'irai faire mes courses le samedi juste pour faire chier les gens.
Merci Tommy. Bravo.
La bande originale.
C'est vrai qu'il est touchant, ce film Mauvaises Herbes. Il est touchant parce que d'abord, il y a une véritable toile de fond.
Ouais, la toile de fond. Il y a cette histoire qu'on peut pas complètement révéler, de votre personnage.
Spoiler, mais ça va pas ou quoi? Mais non.
Mais
on donne des petites bribes.
On peut expliquer.
C'est un gamin des rues. Voilà.
C'est un gamin qui a beaucoup souffert.
Victime de la guerre, qui est,
Ah oui, donc tu dis tout, d'accord.
Mais oui, je dis tout. Évidemment. Ce sont les premières images. On peut quand même le raconter. C'est
tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu parce que
c'est vrai. victime de la guerre, qui est pris sous l'aile d'une religieuse. Il y a des scènes extrêmement fortes justement dans cet orphelinat.
Ah oui, il dit vraiment tout. Il raconte.
Il y a des scènes très fortes justement où on comprend que cet enfant va grandir en acceptant les autres. Non, mais parce
c'est
que il y a une scène où il y a un enfant qui dit moi. Moi, ce sont les chrétiens qui ont tué ma famille. Lui qui répond, moi, ce sont les. L'autre qui dit.
Oh là là, il dit.
Ce sont les musulmans.
Non, mais la raison de raconter, là.
Non, mais oui, c'est le boss de l'émission. Personne va dire qu'il a tort.
Et ces deux enfants. Et c'est
Non, mais ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord.
C'est sublimement bien réalisé parce que la caméra est verticale. Ils sont comme ça dans leur lit. Ils se parlent et ils se font.
C'est un plan séquence, ça.
Ils se tournent dos à dos.
C'est comme le réel. Il s'est pris la tête. Pour ça, faut lui rendre hommage.
Ouais, il y en a plusieurs plans séquences.
Merci d'avoir remarqué.
Il y a plein de
séquences. Merci d'avoir remarqué.
Notamment avec Catherine, ouais. Catherine à table, tous les deux, c'est super fort.
Mais
ça.
Merci d'avoir remarqué, parce que c'est rare. Quoi.
Et là, vous avez bien dû apprendre votre texte quand même pour
là,
faire cette pensée.
Justement, là, c'est un peu de l'impro cette scène.
C'est vrai.
Je m'en suis sorti comme ça.
Mais
je suis d'accord sur le côté que vous avez dit, Nagui, sur les
enfants.
Sur le côté non manichéen par rapport aux religions. C'est que j'aime pas traiter les sujets frontalement. Et pour moi, le bien, le mal n'est pas réservé à une religion. Mmh. Donc, dans ce film, il y a des bons chrétiens, des mauvais chrétiens, des bons musulmans, mauvais musulmans, des bons juifs, des mauvais juifs.
Et voilà. Que justement, ça va le former dans son caractère.
Exactement.
Ce
l'acceptation des autres.
Exactement.
Exactement.
Et de l'importance de la communication aussi et de parler. Il y a plein d'événements dans son enfance, en tout cas, qui trouvent écho dans sa vie d'aujourd'hui.
D'éducateur.
Et surtout dont il se sert.
Ouais. Oui, c'est aussi pour ça qu'il est moins choqué par la violence des gamins, parce qu'on vient d'ailleurs. Et qu'on a vu des choses beaucoup plus graves. Ça, c'est, je m'en ai rendu compte très tôt avec mon père. Quand mon père, il bossait au quartier des poètes à Pierrefitte, et il y avait de temps en temps des jeunes qui parlaient de prison devant lui.
Et ça, on le voyait dans le premier
voilà,
film.
Voilà, et jamais il leur a dit, mais vous savez, moi, je me suis fait torturer pendant 7 ans et demi dans les geôles du Shah d'Iran, alors qu'il aurait pu les calmer et se faire respecter par rapport à ça. Mais ça m'avait marqué, ce truc-là. Et je l'ai encore en tête. J'aime savoir d'où viennent les gens et quel background on a, parce que ça aide souvent à décanter plein de choses.
Et ce qui est savoureux, c'est non seulement, on l'a dit, les scènes avec Catherine Deneuve, où elle est un peu comme ça malmenée, et puis aussi les scènes avec ses ados. Et là, on voit la... la puissance de la répartie. Comment finalement le contenu de ce qu'on veut leur enseigner est certes important, mais si on n'arrive pas à établir un contact. Et là, je vous revois comme sur scène dans votre spectacle, où vous interpellez les gens, où vous jouez avec les gens, et tout d'un coup, on a envie d'être à l'écoute. Et c'est ce que vous montrez, comment vous parvenez à séduire finalement ces gamins.
Mais vous avez tout dit. C'est pas tant ce qu'on apprend qui est important, c'est comment on l'apprend. Je pense que si on demande à n'importe qui ici de quel prof il se rappelle, c'est pas tant la matière dont il se rappelle, c'est la méthode. C'est un jour, ce prof a fait ça avec moi, ouais. Il m'a donné envie de... Et voilà, et ben c'est
oui,
ça la réalité.
Enfin, ces profs-là font aimer ensuite la matière.
C'est ça, mais c'est pas la matière à la base. C'est leur comportement, c'est ouais. Le temps qu'ils nous accordent, c'est le regard bienveillant, ouais. La transmission. Ouais, vous avez raison.
Ça s'appelle Les Mauvaises Herbes et c'est au cinéma à partir de ce mercredi. Et c'est un très bon film ouais. Qui est bien réalisé. C'est fou ça, qui l'a réalisé ?
Merci beaucoup. Un mec que je connais pas, mais très sympa.
Non, moi je suis très très impressionné, Kéron, parce que j'ai adoré votre premier film. J'ai adoré Mauvaises Herbes aussi.
Qui était très autobiographique, ouais. Donc on pouvait se dire.
Parents complètes, tout
voilà,
était vrai.
Voilà, on peut se dire là, vous étiez impliqué, concerné par quelque chose d'autobiographique, mais là.
Là, j'en avais rien à foutre.
Il y a sûrement une part de vrai.
Bah, avec les gamins, les.
Mais qui est plus diluée, en tout cas, dans une fiction.
La structure est vraie. Et les problématiques des 6 gamins que les gens vont découvrir au cinéma sont vraies. Soit je les ai observées, ouais. Soit c'est des collègues qui m'ont raconté. Tout le reste est fictionné, mais même quand on fictionne, je sais qu'il y a des gens, ce que j'ai raconté avec ce que mon personnage a vécu dans son pays d'origine, je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Donc c'est une manière de tout mettre sur lui, mais...
Non, il allait voir André Dussolier en coureur de fond là. Ouais. Voilà,
André, il a une forme physique incroyable,
sprinter.
Il m'a usé sur cette chaîne. Ouais. Cette scène, il m'a usé vraiment.
Ce qui est un peu triste pour moi, c'est de voir que cette scène qui durait très très longtemps sur le périphérique, il l'a coupée.
J'ai eu honte.
Je le rattrapais au bout du compte, mais ouais. Beaucoup plus tôt quoi. Et,
ça se voyait dans votre foulée.
On a couru toute la journée, etc. Et voilà, c'est pas grand chose un acteur parce qu'à l'arrivée, évidemment. Plus rien.
Frustrant. Ouais. Mais ça, c'est pour les gâteaux, en fait. C'est à cause des gâteaux de mauvaise qualité que vous achetez.
Ça sera dans les bonus. Ça sera dans les bonus. Le plan séquence de la course d'André Dussolier sera dans
un bonus.
Voici l'humeur d'Agnès Surtel.
Non.
Si.
Bonjour les enfants,
bonjour.
Vous connaissiez les poux à l'école primaire, la mononucléose à la colo d'Osgore, la chlamydia à 25 ans, l'adultère à 45. Découvrez maintenant. Les punaises de lit dans vos cinémas MK2.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Histoire vraie, oui, les enfants, la semaine dernière, invasion de punaises de lit dans la salle numéro 2 du MK2 Quai de Loire à Paris. Mais et non. Apparemment dans la salle numéro 7 du MK2 Bibliothèque. On les connaît bien. Voilà, donc moi à la base, je veux pas de problème, je veux juste être heureuse. La semaine dernière, je voulais juste aller voir une bonne comédie française qui fait du bien. N'importe laquelle, franchement, je suis pas compliquée. Du moment que l'affiche, elle est bleue. Et le titre, il est jaune. Moi, je suis contente.
C'est bon signe.
Sauf que ma salle de cinéma était fermée. Because, éradication de punaises de lit. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est que les punaises de lit? Je ne parle pas de vos compagnes, hein. Je parle de petites bestioles minuscules, poilues, noires, par centaines dans vos draps, dans vos matelas ou dans les fauteuils, qui viennent vous sucer le sang la nuit. C'est immonde, ça rend complètement fou, c'est hyper difficile de s'en débarrasser. Bref, je ne sais pas si vous saviez, mais une femelle punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs en une vie. Pas de PMA chez ces punaises. Les meufs sont des machines. Au MK2, il paraît qu'elles tombent enceintes à chaque nouvelle bande-annonce avec Vincent Cassel dedans. Étant donné que la seule bestiole capable d'éradiquer les punaises de lit, c'est le cafard, est-ce que je souhaite une invasion de cafards au MK2? Je suis pas sûre, je vais pas aller jusque-là. Peut-être il faut juste arrêter les bandes-annonces avec Vincent Cassel dedans, comme ça les calme, les petites. Vincent, les punaises de lit.
Oui, une très bonne imitation.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais les transats du Nikki Beach à Saint-Tropez sont plus propres que les fauteuils du MK2.
C'est pas possible.
Je ne sais pas, je n'y suis pas allée personnellement, mais Guillermo m'a raconté son stage de méditation.
Arrête, il est en larmes, Guillermo. La Belgique a encore perdu hier contre la Suisse.
Ah d'accord. Mais c'est lui qui m'a dit qu'il paraît que tous les matins, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, il y a un plagiste qui vient nettoyer à la Javel les grands matelas blancs du Nikki pour que les Russes sous MD en trikini ne chopent pas les morpions des Russes sous MD en bikini de la veille. Voilà, il dit, il y a partout, puis Javel. C'est Guillermo quand il me raconte.
C'est vrai.
J'arrête les imitations.
Non, non.
Voilà, bref, cette histoire de punaise de lit me fait réfléchir au matelas que j'ai eu dans ma vie. Parce que ça nous est tous arrivé de récupérer le matelas de quelqu'un d'autre.
Ah, non.
Sous l'oule.
Non.
Vous avez jamais vécu en coloc, vous avez jamais loué un Airbnb à Lisbonne en amoureux.
Leïla.
Jamais de la vie. Moi, c'est mon matelas. C'est mon matelas.
D'accord.
Tu as déjà dormi à l'hôtel, Leïla.
Il y a bien des fois où tu as dormi sur un matelas qui n'était pas le tien.
Mais moi, je mets un truc par-dessus.
Oui, ça se voit un drap, oui.
En plus du mien.
Ça s'appelle un époux, oui.
Tu es déjà tombée amoureuse, tu as emménagé avec un garçon, tu as forcément dit, en emménageant chez ce garçon, ouais, c'est peut-être l'appartement où il a vécu 8 ans avec son ex, mais tu vois, là, on a juste retourné le matelas, et franchement, ça change complètement le karma de l'appart. J'ai oublié qu'il avait une ex.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça.
Retourner le matelas, et on démarre.
Alors que tu le
vie.
Sais, quand tu te couches, toi, qu'il y a des gens qui ont été très heureux, puis très malheureux sur ce matelas, sans toi. Et il y a des souvenirs qui tâchent.
Oh non.
C'est
mon...
Attends, c'est un haïku presque, c'est un poème ça. Et il y a des crottes de nez cachées, qu'on a tous cachées sous le drap. Il dit oui, Tom, sous le couvre-lit.
Non, dis-toi, t'es très sale.
Ah, même le sommier, arrêtez, on les cache et on dit que c'est pas nous, c'est jamais nous. Moi je me suis toujours dit.
Maintenant on sait que c'est toi,
sur le manche. Ok les gars. Moi je me suis toujours dit que la princesse au petit pois, c'était pas un petit pois qu'elle sentait sous les 20 matelas et les 20 édredons en plume d'éder. Je me suis toujours dit que c'était une crotte de nez qui avait été oubliée par l'ex, la princesse d'avant. Et je me suis toujours dit aussi que la princesse au petit pois, bah, elle aurait vachement du mal à supporter le monde actuel. Enfin, les matelas à mémoire de forme, les manifs en gilet jaune, les petits pois dans la tête de Laurent Wauquiez qui comparait hier la PMA à des techniques de nazis. Quelle punaise de lit, celui-là. Bref, la princesse au petit pois, elle est beaucoup trop sensible pour tout ça, comme nous ici. Donc voilà, bonne semaine les enfants, mangez vos légumes et mangez vos crottes de nez.
Agnès Hurstel,
merci. Agnès qui sera au Théâtre du Rond-Point, c'est bien ça, à partir du 30 novembre, tous les vendredis et samedis, ce sera à 18h30.
Oui, la c'est classe. Excessivement tôt, c'est pour les retraités et les lycéens.
Mais c'est bien, tu peux aller dîner après.
Vraiment la cible du spectacle. Le malheur, une plante à parfum, nos chances se réduisent comme peau de chagrin. On a le destin hitchcockien, mais les fleurs ne poussent pas plus vite en terre sainte. Souvent y'a la nature qui reprend ses droits, lorsque tu vois mourir plus de gens que d'arbres. Moi je fais de la musique qui se voit dans le noir, qui se remarque comme Catherine de Neuf qui dame. On vient de la merde, je te le dis d'emblée, mais paraît que le fumier peut servir d'engrais. Moi je sais encaisser, je sais rendre les coups, je suis un anarchiste qui traverse dans les clous.
Et là c'est Leïla qui chante.
Là c'est Leïla qui chante, ouais.
Leïla Boumedian, et ensuite il y a Kéron.
Après c'est moi.
Eh ouais.
C'est mon kiff ce morceau. Je l'ai fait que pour ça, pardon. Chaque signe, mais pour les mauvaises herbes, les volets se ferment, ça forge en silence. Comme le langage des signes, on pousse en marge des lignes. Dans ce monde où les gens lâchent des cils, des silhouettes, les gendarmes dessinent. Des mauvaises herbes, on a mille en bas. Et c'est là où tu vas rater des cœurs.
C'est là.
Pas de mauvaise. Ouais, petit effet de style.
J'adore. J'adore ce plan. C'est mieux qu'un break.
Ça tue.
J'adore. Mauvaise herbe. Titre du film de Kéron, avec Kéron, réalisé par Kéron, écrit par Kéron, chanté par Kéron, pour Kéron.
Je suis dans Robert Hossein.
Vous aimez pas partager ou quoi?
Mais non, on partage, au contraire. Ouais. Non, mais c'est un petit kiff. C'est un petit kiff, ce morceau. Je vous explique l'origine du morceau. C'est un peu long et chiant, mais je peux le faire si vous voulez.
Ah bah, avec plaisir.
Okay.
J'ai remarqué qu'à chaque...
Merci. Catherine Deneuve, André Dusselier, Kéron sont à l'affiche de Mauvaise Herbe.
Meilleur moment.
Quel salaud.
Parfait.
Mauvaise Herbe, la bande originale. Non pas du film, mais de leur vie. On va commencer en quelle année?
Tu 84.
Choisis. Allez, 1984. Mon petit lapin a bien du chagrin.
Il ne saute plus dans son petit jardin. Sérieux? Mais bien sûr, j'avais 2 ans 84, oui, c'est vrai. Tu crois que j'écoutais quoi? J'étais à fond dans Petit Lapin. J'avais les gestes, Pete Corée et tout ça, bien sûr.
Alors on a évoqué tout à l'heure l'histoire de votre père, de votre mère, votre arrivée à Pierrefitte en scène.
Sur scène. Pierrefitte en scène, on dirait un festival.
Eh oui, c'est ça, c'est en scène Saint-Denis, ouais, ça pourrait être ça.
Bon, il y a scène dedans, quoi.
Vous parlez de l'association du centre social, ouais. Enfin, on a vu dans Nous Trois ou Rien un petit peu l'itinéraire, et vous parlez beaucoup de vos parents comme des modèles, des modèles absolus.
Ben, c'est vrai, ils le sont, franchement, j'ai rarement vu des gens aussi honnêtes, aussi intègres. Mon père a résisté à deux dictatures. Il avait l'occasion d'avoir des postes assez haut placés en cédant. Cette musique est compliquée parce qu'elle accélère, et ralentit. Et moi, j'aime pas être laid back.
Non, votre père aurait pu accepter de vivre.
Ah oui, facilement. D'ailleurs, la raison, je l'ai pas mise dans Nos Trois ou Rien, mais la raison pour laquelle il prend 10 ans de prison quand il est jugé, elle est toute con. Juste avant, il y a, en fait, le juge, le jour de son jugement, c'est un ami à lui. Mon père était avocat. Et il lui dit, écoute, Ibad, ce que tu fais, c'est que juste avant vous, on va juger un groupe de gros dissidents. Ils vont pas vouloir dire devant le chat d'Iran qu'ils ont eu tort. Il y a les caméras, etc. Donc, on leur met 10 ans. Vous venez juste derrière avec ton petit groupe, vous débutez dans la dissidence, et vous vous dites, nous on a eu tort, on vous met 3 mois et vous ressortez. Et quand arrive leur groupe, eux ils ne cèdent pas, ils disent, nous on pense exactement comme ceux qui étaient avant nous. C'est pour ça qu'ils prennent 10 ans. Et voilà, moi j'ai vu mon père.
Mais pourquoi t'as pas mis ça dans le film? Parce que c'est fort.
Il y avait tellement de... Mais j'ai mis un tiers de ce qu'ils ont vécu. Il y avait tellement de trucs à raconter. J'ai pas raconté quand je suis petit et mon père rentre à la maison avec un gros portefeuille comme ça. Il dit à ma mère, je l'ai trouvé dehors. On fouille, je crois, il y avait 300 francs, un truc comme ça. Pour l'époque, c'était incroyable. Et ben, je les vois appeler tous les gens dont il y a le numéro pour retrouver le propriétaire pour lui rendre. Quand on a des parents comme ça, c'est difficile de
garder les 300 francs après.
C'est difficile de faire comme André et de pas donner au fisc. Voilà,
ça veut bien dire aussi, et ça c'est valable pour tous les parents du monde, les parents doivent être des exemples pour leurs propres enfants.
Chacun décide, mais c'est ça.
On peut pas dire aux enfants qui montent dans la voiture derrière, mets ta ceinture et être devant et pas la mettre.
Parce qu'on n'est pas crédible, exactement.
Et c'est à sa sortie de prison que votre père rencontre votre mère. Vous savez dans quelles circonstances?
Oui, en fait, ça non plus, j'ai pas pu bien le mettre dans le film. Je donne des petits exclus.
Les bonus.
En fait, ma mère était chargée de la sécurité de mon père. C'est-à-dire que dans le parti, on les a présentés et ma mère devait se charger d'aider mon père à se déplacer incognito dans la ville pour aller à des réunions, etc. Et donc, mon père souvent apportait une burqa. Et ma mère était à côté, elle la faisait passer pour sa cousine qui était muette, qui pouvait pas parler, etc. Et entre autres, c'est un des trucs, ils se sont rencontrés comme ça, c'était son garde du corps entre guillemets, mais ça avait pas se taper ma mère.
C'est comme le petit garçon dans Mauvaise Herbe qui joue à l'aveugle pour pas se faire.
Mais ne racontez pas, mais
il est incroyable, mais si, la raison.
Il spoil tout.
Mais non. C'est pas grave, vraiment.
C'est comme Redon Faïd qui s'échappait à plein. Ça m'a fait rire le truc de Redon Faïd avec la burqa justement.
Oui, c'est pas.
Non, mais la vanne de la burqa, parce que.
La vanne de la burqa, oui, la comparaison entre votre papa et lui.
Non, mais la vanne de la burqa. Je pensais pas que c'était encore d'actualité, que quelqu'un voudrait encore la faire. C'est incroyable.
Ça marche.
Donc voilà.
Quant à vous, André Dusselier, vous écoutiez dans ces années 80.
Tellement du pécho, André, sur ces trucs-là, j'en suis sûr.
On voit dans le film, on voit dans Mauvaise Herbe qu'il danse bien, donc on imagine.
C'est un séducteur de malade, il cache son jeu, là, vous le voyez comme ça et tout, genre, il sait pas ce qu'il dit, il a des méthodes, mais non, mais il est trop fort, André.
Rita Mitsuko, vous entendez cette chanson, vous voyez en train de faire quoi?
Non, je sais pas, ça m'évoque tout d'un coup une liberté. J'adore Catherine Ringer et puis d'ailleurs elle continue à être à la parole très libre. Et puis j'aimais beaucoup ce groupe, quoi. Et je sais pas, les rythmes, les paroles, tout. Je sais pas, il y avait tout d'un coup
une espèce de folie, quoi.
Oui, c'est un révolté permanent.
Hein, ça se voit, c'est un grand fou. Va.
Et dans ces années-là, André, vous êtes sur scène avec Patrick Chesnay et Catherine Rich.
Ouais.
Vous allez tourner une petite comédie. C'est
oui,
comme ça que
comédie,
vous racontez.
Très modeste.
Le scénario était sympa. Les producteurs au début voulaient pas trop de vous et
ils voulaient pas du tout de moi.
Et la réalisatrice Colline Serrault.
Oui.
Elle voulait bien de vous.
Oui, parce que oui, moi je sortais de L'Amour à mort. Alors les producteurs ont dit bon, non, il va pas jouer une comédie. Donc et Colline Serrault en effet qui avait fait des films d'auteur jusqu'alors. Dit mais non, un comédien peut tout jouer, comédie ou tragédie, etc., ou n'importe quoi. Et donc, en effet, on a tourné dans ce film, à l'époque où Rambo triomphait sur les écrans et trois hommes qui s'occupaient d'un bébé.
Trois hommes et un couffin, et ça a été, premier jour, je crois, 5000 entrées, deuxième jour, rebelote, troisième jour, succès mais fou.
Oui, à tel point que Patrick Chesnay me dit, mais c'est quoi, comment s'appelait ce film dont tu m'as parlé? Je disais, mais non, ça va, c'est modeste, c'est une petite comédie, etc. Et donc, en effet, ça a continué, parce que toutes les générations allaient le voir.
Personne n'y croyait.
Ouais,
en fait,
c'était bouche à oreille qui a fait le succès.
Et j'ai hérité, c'est vrai, du rôle 15 jours avant le tournage, hein, franchement, parce qu'ils avaient essoré, épuisé toute la. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas vraiment à cette histoire.
Et vous racontez que c'est un peu à ce moment-là aussi que tout d'un coup, le cinéma dit d'auteur, joint, se retrouve un peu en communion avec le cinéma populaire.
Chaque année, hein, de toute façon, il y a toujours des films comme ça, d'auteur, c'est un peu la grande chance du cinéma.
Heureusement,
français. Que les gens font les films qu'ils ont envie de faire pour que le scénario soit bon. À l'arrivée, il y a toujours des surprises chaque année. Donc, en effet, le cinéma d'auteur peut devenir aussi un cinéma très populaire, très public.
En 2011, Kéron, vous écoutiez.
Quand coule le sang, se répand, la feuille de verre absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que
le morceau du rap français.
Que je vois des mecs couler par le désespoir.
Vous êtes plus IAM qu'NTM?
Ouais, clairement. Sans offense NTM, j'aime beaucoup, mais IAM, c'est eux qui m'ont. Akhenaton, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, carrément. Ah ouais.
Demain, c'est loin.
C'est un morceau de 8 minutes, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien. Il n'y a que des images, que des flashs. Il a une boucle lancinante qui tourne. Et c'est la bible de n'importe qui aime le rap.
Est-ce que vous pensez que le rap, certains rap en tout cas, peuvent avoir des valeurs éducatives autant que certains rap peuvent être dangereux pour ceux qui prennent au pied de la lettre ce qui est raconté?
Mais en fait, c'est comme le cinéma ou comme les jeux vidéo, comme tout, comme la politique. Le rap n'a pas le droit au second degré, on dirait. Ouais. On dirait qu'il n'y a que dans le rap où il faut être soi-même ils doivent régulièrement se justifier sur ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. C'est des personnages, c'est une musique. Personne dit à Vincent Cassel, justement, dans Doberman, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que toi tu penses de la violence? Est-ce qu'irréversible c'est bien?
Sauf qu'il a un nom de personnage dans le film, justement. Mais... Or là, quand ce sont des artistes, c'est leur nom, leur fan, leur visage.
Ce sont déjà des personnages.
C'est des artistes, ouais.
Ah oui, non, mais
elles sont déjà des personnages.
À ce moment-là, on peut détruire tous les halls d'aéroport en disant, mais non, c'est un personnage.
Ah non, mais là, vous parlez, c'est pas le rap le problème dans cette histoire, c'est deux tempéraments, deux personnalités qui règlent leur compte.
Deux potes, deux ex-potes.
Après voilà, ça me regarde même pas. Mais c'est pas le rap qui est. Parce qu'il y a la même chose dans le rock, il y a la même chose dans le. Enfin, moi, si on revient dans les années 70-80, dans l'histoire du rock, je suis sûr qu'il y a des bagarres entre les. C'est sûr et certain.
Les mecs qui démontent les chambres d'hôtel parce qu'ils sont complètement défoncés.
Les rappeurs, ils font pas ça, hein.
Menagui, ça l'énerve parce qu'il est actionnaire dans les duty free des aéroports de Paris.
Moi, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on n'accorde pas le premier degré au rap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit oui, je vais fumer quelque chose, on se doute bien qu'il va pas le faire. Enfin, que ça me semble tomber sous le sens, mais on a toujours une sorte de petite paranoïa en disant mon Dieu, ils sont dangereux, ils peuvent inciter les autres à le faire. Non, quand moi je vois un film d'action avec un mec qui roule à 200 à l'heure, je me dis pas.
Me fais pas passer pour un débile mental.
C'est trop tard.
Oui, je sais que c'est trop tard. Évidemment que dans le monde du rock, il y avait des propos, même Jagger et les Rolling Stones, il y avait des propos sulfureux, ou les Beatles avec Lucy in the Sky with Diamonds, il y avait des propos sulfureux, sauf que c'était pas dans un cadre de réseaux sociaux, dans un cadre de communauté.
Mais c'est pas la faute du rap si la portée est plus forte.
Après, la manière dont ils se servent de ça et de ces déclinaisons,
ça, c'est intéressant.
Me paraît plus responsable.
Ça, c'est intéressant, mais le problème pour moi, il vient de plus haut. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui valorise la réussite et pas l'honnêteté. À tous les niveaux. Mais il a réussi. Il est devenu riche. Ouais, mais il a escroqué tout le monde. Ouais, mais quand même, il a réussi. Donc pourquoi les rappeurs, pourquoi eux, ils seraient extérieurs à ça? Eux aussi, ils ont compris que le système, c'est de réussir. Fais quelque chose de mal, mais on parlera de toi. Il faut changer plus haut les choses pour que eux aussi. On peut pas s'en prendre à eux et dire.
Ça marche qu'un temps la réussite sans l'honnêteté. Il y a un moment où on est quand même rattrapé par la vie.
Malheureusement,
ça marche pas mal, ces 8.
Non.
Alors, des Balkaniers, regardez, il y en a plein.
Ils se font attraper quand même.
Pour l'instant, non. Allez, Pasqua, il a vécu tranquille toute sa vie. Il y en a plein. Et pour moi, avant de s'attaquer aux rappeurs, aux footballeurs, ils gagnent trop, etc., attaquons-nous déjà aux politiciens. Pour moi, c'est eux qui doivent nous représenter, qui le font mal.
Et à cette époque-là, Kéron, vous êtes sur scène dans Libre Éducation.
Ouais.
Déjà.
Un stand-up où il y a beaucoup d'impro et vous dites que le spectacle peut durer entre 1h, 1h10 et 2h45.
Ouais, c'était mon record. J'ai fait ça un soir, c'était pour le nouvel an. Je joue le 31 décembre et je monte sur scène et je sais pas, quelqu'un dans la salle qui dit ouais, on veut fêter le nouvel an ici. Et ils commencent tous à applaudir. Et je dis mais non, mais vous allez rater avec vos familles. Non, on veut le fêter ici. On veut dire les 12 coups ici. Et j'ai tenu jusqu'à minuit et quelques. Donc j'ai fait 2h45 ce jour-là, c'était n'importe quoi. Les gens ils pleuraient de fatigue. Ah c'est super, on peut rentrer.
Ils avançaient leur montre.
Ah non, c'était une prise d'otage, c'était fou. J'ai tenu le coup pour eux, quoi. Plus jamais.
Et vous vous serviez déjà de votre expérience d'ancien éducateur dans le spectacle?
Mais ça aide énormément, je vous jure. Le fait de parler aux gens en les regardant, en analysant, en se demandant ce qu'ils sont en train de ressentir, est-ce qu'ils rigolent à ma blague, est-ce qu'ils sont fatigués. Mon spectacle, c'est ma grande fierté. André l'a vu plusieurs fois, c'est que le spectacle n'est pas sur scène, mais dans toute la salle. Et on participe tous et il y a un moment de communion. C'est un spectacle qui parle de rien, mais quand on sort, on a vraiment vécu un moment hors du temps.
C'est vrai.
C'est ma grande fierté.
Non, c'est vrai, totalement vrai. Quant à vous, André Dusselier, vous écoutiez Zaz.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi?
Elle vous fait quoi cette chanson ou cette voix?
Des paroles qui pourraient revendiquer les personnages du film un peu là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il y a un lien en tout cas, il me semble.
C'est une histoire vraie en plus, c'est les paroles de cette chanson. Mais c'est pas elle qui a écrit les paroles.
C'est pas elle qui a écrit les paroles.
Non, c'est un jeune issu de l'immigration justement qui est allé dans un déjeuner de bonne famille, ouais. Et d'un coup il a manqué un objet dans l'appartement ou pendant le repas, et la maîtresse de maison s'est tournée vers le seul arabe qui était à table en lui disant: est-ce que vous pouvez nous rendre la fourchette qui manque d'argenterie? Et le gars dit: non mais moi j'ai pas besoin de piquer des fourchettes. D'ailleurs c'est ce qu'il dit, j'ai pas besoin de vos fourchettes dans la chanson. Ouais. Et donc il a écrit cette chanson avec à partir de cet incident.
Ah bah, je suis bien trompé en la choisissant, parce que ça pourrait correspondre totalement. Un petit peu vraiment à ces personnages.
Mais c'est pas l'histoire de Zaz, c'est ce que
d'accord,
je tenais à préciser.
Non mais c'est bien de connaître la vérité et l'origine de la chanson, je ne savais pas. Mais enfin voilà, il m'a semblé que le lien s'imposait quoi, avec les personnages, non?
Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais.
Totalement.
Ils sont dans une vérité, dans d'autres valeurs, dans l'empathie, dans la bienveillance, et pas dans les fourchettes.
Et vous à cette époque-là, André, en 2011, vous êtes de retour sur scène pour Diplomatie.
Ah oui, je suis revenu souvent en scène, sur scène, parce que j'aime beaucoup le théâtre et Diplomatie.
Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas allé au théâtre à cette époque-là.
Oh, il m'a semblé, enfin, c'est-à-dire que quand on crée une pièce et puis après on la continue, ouais. C'est ça qu'il y a de bien avec le théâtre, on fait des tournées, etc., où on la reprend. Alors, évidemment, à la reprise, elle se passe plus inaperçue que la création, mais en tout cas, Diplomatie, oui, c'était vraiment une belle histoire que j'ignorais un petit peu, qui était la volonté qu'avait Hitler de détruire Paris et qui avait demandé à Scholtitz de miner tous les monuments de Paris. C'est une histoire vraie. Et donc, c'était la rencontre entre Scholtitz et puis Nordling, le diplomate suédois, qui essayait de le dissuader, évidemment. Scholtitz a pris la décision de ne pas faire sauter Paris, sinon...
Sinon, il n'y aurait plus de Paris. Film, hein. Avec Nils Arestrup, j'ai souvenir de vous avoir vu sur scène une pièce de Cyril Gelly.
Voilà.
Et je crois plus de 250 représentations.
Oui, on a joué longtemps. Et c'est devenu un film après, qu'a réalisé Volker Schlöndorff, qui l'a adapté vraiment en sortant un peu du huis clos et du face-à-face qu'il y avait entre les deux hommes. Et c'était un film aussi qui a vraiment... beaucoup fonctionné et révélé beaucoup de choses sur cette histoire parisienne.
Et justement, en parlant de film, quand on est au théâtre pendant au moins 250 représentations, voire plus, on peut difficilement tourner, j'imagine.
Ouais. Je l'ai fait il y a longtemps, je ne le ferai plus, je ne peux plus le faire, c'est impossible. Non, c'est une grosse fatigue quand même.
Ouais.
Pour redonner les droits d'auteur de cette chanson, il y a deux messieurs, un qui s'appelle Tris et l'autre qui s'appelle Kereddine Soltani. Je ne sais pas lequel des deux a vécu l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est l'un des deux sur cette chanson. François Afif Bentanan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes créateur d'entreprise avant de fonder ZUP, avec un Z, ZUP de Co. Vous avez une association, donc c'est une association d'aide aux devoirs qui apporte des solutions concrètes au décrochage scolaire, c'est ça.
Ouais.
Vous, d'ailleurs, tout à l'heure, vous nous avez offert des gommes en disant c'est notre symbole, c'est pour dire on a le droit de se tromper, il faut même se tromper dans la vie. À l'école.
À l'école, oui, mais d'ailleurs, pour rebondir sur votre film, que j'ai vu, magnifique d'ailleurs, donc c'est là où on voit que le talent n'a pas de domiciliation, que les jeunes ont un vrai potentiel, et donc la bataille qu'on mène depuis plus de 10 ans avec ZUP2CO, c'est de permettre aux enfants de pouvoir faire leurs devoirs à l'école. Car quand on fait des études sur ce sujet-là, vous avez 49% des parents qui consacrent moins de 15 minutes aux devoirs de leurs enfants. Mmh. Et on parle souvent de soutien scolaire, on parle souvent d'accompagnement. Mmh. Et donc nous, on a milité pour que les devoirs soient faits à l'école, pour que les enfants, lorsqu'ils rentrent chez eux, eh bien, puissent les refaire s'ils veulent bachoter, mais puissent passer à autre chose, faire du théâtre, de la musique.
Je sais pas comment ça va, je crois que c'est le système inversé où on dit, c'est ça, non ?
Allez-y.
Alors où c'est, on apprend les leçons à la maison, c'est plus facile de s'isoler et d'apprendre par cœur et puis ensuite à l'école de faire les devoirs.
D'aider. Mais ça, c'est, on est dans le monde universitaire là, c'est-à-dire qu'on est
non,
sur
non,
des MOOC.
Non, c'est une théorie.
Des classes inversées.
Je crois que ça s'appelle inversé. Je suis pas sûr, on va vérifier avant que je dise de bêtises. Et je trouve ça très intelligent de dire que c'est peut-être plus facile d'apprendre un par cœur ou de lire une leçon à la maison, même dans le bruit qu'il peut y avoir quand on a tous les enfants n'ont pas leur propre chambre, ils partagent des chambres en fraternité, se retrouver après à l'école et là faire les devoirs, et là que les profs aient le temps de suivre le devoir, de le corriger et de le rectifier quand on est dans du pratique.
Alors ça, dans la théorie, ça peut fonctionner.
Mais
moi, je suis parti du principe que je n'allais pas changer avec une petite baguette magique le système tel qu'il était aujourd'hui. Et donc, vous avez actuellement un système avec 1 million de personnes, 850 000 profs, des collèges, des quartiers populaires, des quartiers favorisés. Et donc, plutôt que d'essayer de faire à l'extérieur, d'essayer de régler le problème à l'intérieur. Et donc, c'est ça l'idée, de se dire, Beaucoup de gens théorisent ce qu'il faut faire, alors que pendant le temps qu'on théorise, eh bien les années passent, et c'est comme ça qu'on arrive en échec scolaire, c'est comme ça qu'il se passe 3-4 ans, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, loin de là, mais pendant que les gens réfléchissent à ce qu'il faut faire demain, il faut traiter les problèmes tout de suite, et tout de suite, c'est des enfants en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, qui vont avoir leur brevet, qui vont ensuite choisir potentiellement leur parcours, et nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons milité pour que des étudiants de grandes écoles et d'universités qui ont été financées par la collectivité pendant plus de 15 ans, redonnent en gros 24 heures de leur vie, 24 heures, c'est-à-dire 2 heures par semaine sur 20 semaines, 24 heures à des enfants qui sont en difficulté.
Par rapport à tout ce que le pays leur a apporté et donc les impôts de ce pays.
Exactement.
C'est comme ça que ça se passe.
Ouais. La première bataille que nous avons menée, c'est que les devoirs puissent être faits à l'école. Ça a mis 10 ans. Hein.
C'est vachement bien, c'est super important.
Je pensais que ça allait se régler vite. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit les enfants sont en difficulté, il faut faire leurs devoirs, il faut mettre des outils pour mesurer s'ils viennent, faire des SMS, rencontrer les parents, impliquer les parents. Et donc voilà. Donc une fois que vous avez dit tout ça, vous dites au revoir et puis ils vont faire. Mmh. Mais pas du tout.
Mais alors, lutter contre l'échec scolaire, c'est pas uniquement faire les devoirs à la maison, ça va plus loin.
Non, l'échec scolaire, c'est beaucoup plus large. Parce que être en échec scolaire, c'est pas parce que j'ai pas fait mes devoirs. Je peux avoir des raisons familiales, d'environnement, de déménagement, personnel. Enfin, il y a mille et une raisons d'être en échec scolaire. Mais par contre, quand on prend le point commun de tout ça, c'est que les enfants sont jugés sur leurs notes. Donc, en gros, on sait qu'un enfant...
Évaluation ou note. Ouais. La vanne est faite d'ailleurs dans le film.
Exactement. Et donc, c'est pour ça que je la reprends au passage. Mais, et donc, les enfants sont concentrés 45 minutes. Donc, dans un cours de maths, vous parliez de maths tout à l'heure, vous pouvez à un moment donné avoir eu un moment de déconcentration et vous n'avez pas suivi le calcul des stats, par exemple. Voilà. Et vous allez faire un contrôle 2 jours plus tard, vous avez loupé ça et vous allez vous taper 2, 3 ou 4. Et donc, vous allez dire, je ne suis pas bon. Et ça, c'est comme la goutte d'eau sur le marbre. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, en ayant des mauvaises notes, eh bien, on se dit, on n'est pas bon. Loin de là. Simplement, on n'a pas compris. Ouais. Et donc, l'intérêt des devoirs, c'est vous permettre, comme vous faites des comptes rendus et des notes chaque soir de vos réunions ou de votre travail, c'est de faire un compte rendu de ce que j'ai appris dans la journée. Et donc, c'est ça le point de base, parmi tant d'autres. Évidemment, il y a plein de...
Ouais, le problème, c'est que dans des classes de 30 élèves, c'est pas facile pour un professeur aussi de savoir qui a entendu ou qui a compris quoi à quel moment. Et il faut quand même... Alors après, épée de Damoclès ou pas, les notes, évaluation ou pas, ça c'est un autre débat. Mais un prof seul ne peut pas consacrer un 30e de son temps. Et...
Ouais, ça fait 2 minutes par élève, ouais, donc c'est... pour faire rapide. Mais d'une façon ou d'une autre, vous avez des choses qui sont assez simples parce que une récurrence, cette problématique de un prof, une classe, 30 élèves, etc. Vous avez aujourd'hui le budget de l'éducation nationale, c'est le plus grand budget. Vous avez 1 million de personnes, 59 000 écoles, 95% du budget de l'éducation nationale, c'est du personnel. Donc il n'y a pas de marge possible. Et la seule marge possible, c'est que les citoyens que vous êtes dans le film et dans lequel vous impliquez, que ce soit des retraités, que ce soit des salariés, que ce soit des étudiants, que les citoyens décident à un moment donné de se dire « nous allons prendre ce sujet-là, nous ». Et nous allons nous impliquer sur ce sujet parce que on demande aux profs qui sont les héros, hein, parce que tous les gens qui sont dans cette salle sont passés par l'éducation nationale. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 000 jeunes qui vont jusqu'au bac sur une classe d'âge de 800 000. Ça fait quand même 700 000 personnes qui arrivent. Donc, on parle toujours des trains en retard, mais on parle jamais de ceux qui arrivent à l'heure.
Et donc. Et on reproche beaucoup de choses aux profs et on oublie souvent le mérite.
On attend de reprocher aux profs, ils font le job. La difficulté, c'est que quand vous prenez plus de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire, ça fait 20 enfants par collège.
Alors donc, on peut intervenir avant le décrochage, le fameux décrochage. On peut intervenir
Bien
avant,
sûr.
C'est ce que vous dites.
Bien
vous.
Sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Quand on dit on veut diviser les classes par deux pour la lecture, c'est un bon début. C'était juste un bon début, parce qu'après en CE2, en CM1, en CM2...
Ça a marché déjà, apparemment, non ? Ça porte ses
oui,
fruits.
Mais la problématique de la lecture, l'échec scolaire, c'est pas un problème de quartier populaire. Aujourd'hui, vous avez 140...
Non, je parle de réduire les
dans les écoles primaires, dans les écoles, oui, des quartiers populaires, ouais. C'est-à-dire que vous prenez une portion de la population,
d'accord.
Qui est un bon début.
Il faudrait faire partout.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a, ce que je dis, il n'y a pas de domiciliation. Quand vous avez 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire, les gens disent, ouais, c'est un truc de quartier populaire, de jeunes issus de l'immigration. Je vais vous donner un chiffre, c'est 16%. Et 6% de plus pour les couples mixtes, ça fait 22%. C'est-à-dire que l'échec scolaire est compensé par les parents quand ils peuvent, en payant, et quand ils ne peuvent pas, eh bien en subissant.
Donc vous avez des bénévoles, c'est ça ?
Nous avons des étudiants,
pardon,
oui, bénévoles,
qui rendent
et des jeunes en service civique.
24 heures de leur vie pour aider des enfants à faire les devoirs.
On leur demande de venir 2 heures chaque semaine, s'ils le peuvent, le mardi, le jeudi, le lundi ou autre, pour faire accompagner un enfant en difficulté.
Est-ce que l'éducation nationale vous aide ? ou ben, comment nous,
ils commencent maintenant parce que comme ils ont lancé un programme qui s'appelle Devoir fait, ils sont obligés que ça réussisse. Donc là, ils nous demandent. Mais depuis 10 ans, ils nous regardaient. Et donc, mais ça avance.
Ça s'appelle Zup de Co. Vous vous êtes retrouvés d'ailleurs un tout petit peu ou beaucoup dans le film Mauvaise Herbe?
Beaucoup. Ben, d'une part, il y a deux sujets. C'est que chaque année, on fait un gala d'humour pour l'éducation et je vois Tom et Kyron qui ont été maîtres de cérémonie de cet événement-là. Et encore merci. Je me suis beaucoup retrouvé dans le sujet actuel car je pars du principe que les retraités que nous serons demain, qui ont une vraie compétence, un vrai savoir-faire dans la relation interpersonnelle, peut-être pas dans les maths, peut-être pas dans le français, mais dans la relation interpersonnelle, pourraient demain s'investir dans ce genre de projet et coordonner les actions.
Merci François Afif.
Merci à vous.
Ben Danan, Zup de Co, je le rappelle. Tanguy, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Les gilets jaunes ont marqué le week-end.
Oh, oui, à la télé, on a vu que les gilets jaunes, sauf les daltoniens qui pensent que ça n'a pas pris du tout et se demandent qui étaient tous ces cons en gilets rouges.
On en parle après les infos de midi. Soyez les bienvenus à Agnès Hurstel, Tanguy Bastiaureau, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Morin,
oui, bravo, toi.
Et nos invités André Lichelier et Carole. Un très bon film, Mauvaise Herbe.
Faut applaudir fort près du micro.
Non, t'es pas obligé.
Comme ça, on fait croire qu'on est 200.
T'inquiète pas.
On est 8.
T'inquiète pas. Tout est filmé, on sait bien qu'on est deux.
Oui, c'est vrai.
On est deux. Mauvaise Herbe, avec Catherine Deneuve, André Dussolier, Kéron, et ce casting d'enfants efficaces, Louise Omblivet, Adil Déby, Aku Ben Osman, Youssouf Wagé, Ouassima Zrouki, Joseph Jovanovic, il y a également Leïla Boubédiane, Alban Lenoir, Ayman Wardan, Medine Fianso et Ingrid Donadieu. Voilà pour le casting, mais tout le monde est d'une justesse incroyable. Quel genre de réalisateur est-il, André Dussolier?
Dans la vie.
Il improvise?
Non, c'était écrit vraiment à la virgule près. Alors peut-être, là, je viens d'apprendre tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelques scènes. Enfin, la scène avec Catherine, qui en a fait magnifique, elle était peut-être un peu improvisée. Mais enfin,
parce base, que plan c'est même... séquence et qu'il ne voulait pas apprendre son texte, c'est pour ça.
Ah c'est oui, seulement. Mais la base, c'est quand même, elle est très écrite. Et donc, à la fois, comment dire, très précise sur ce qui est ses intentions, sur ce qu'il veut obtenir, mais avec la sympathie quoi qu'il dégage et qu'il y a sur le tournage. Donc, on ne perd pas de temps, mais en même temps, voilà, on travaille. Dans la bonne humeur.
Comment convaincre André Dussolier? Comment convaincre Catherine Deneuve? Vous avez des Molières et des Césars.
Ah ouais, là. Comme dans le film, il y a beaucoup d'argent.
C'est des faux billets.
Non, mais je pense qu'on peut. Justement, ils ont un tel niveau de jeu, de notoriété, qu'on ne peut pas les convaincre. Ça veut dire qu'on leur envoie un projet et ils sont sollicités par tout le monde. Donc. C'est eux qui décident où ils viennent, où ils viennent pas.
C'est le scénario qui, en effet, qui nous déclenche, quoi. Enfin, l'envie de dire oui tout de suite.
C'est parce l'histoire, en fait. L'histoire,
vous nous avez dit tout à l'heure, en off, j'étais en galère, ça m'a bien arrangé.
Mais qui a dit oui en premier? Parce que j'imagine que si vous dites oui, Catherine Deneuve, ça peut peut-être la tenter, et vice-versa.
Ah oui, exactement. Vous saviez que Catherine Deneuve était dans le projet, André?
Je me souviens plus.
Je me rappelle plus non plus. Je crois qu'on vous a envoyé en même temps à tous les deux.
Peut-être,
je voulais d'abord avoir le trio.
En tout cas, c'est pas, non, c'est pas ça qui décide.
Moi, non, je me suis casté très vite et ensuite on vous a envoyé à toi et Catherine en même temps, je crois.
Oui, c'est ça. Non, c'est le scénario qui est décisif vraiment dans cette histoire-là. Et d'abord, ça parle d'un sujet auquel on est sensible, dont on entend parler tous les jours. Et puis, la manière d'en parler ou la manière de mettre en scène les jeunes, en tout cas, que c'est eux qui sont les personnages principaux de cette histoire avec Kéron.
C'est vrai.
Là, tout d'un coup, c'est vrai que c'est à la fois on est sensible au sujet et à la manière de le traiter.
Alors, justement, Kéron, comment les convaincre? Après, j'imagine qu'il y a des rencontres, des tête-à-tête qui se font, comment les convaincre en disant exactement ce que vient de dire André, vous n'aurez pas le rôle principal, ce sont six jeunes adolescents et
Mais en fait, ce qui est bien avec le scénario, c'est que tout est clair en fait déjà, donc quand on voit le scénario, c'est ça qu'on tourne. Donc Catherine, moi j'imagine, j'étais pas avec eux quand ils l'ont lu, mais j'imagine qu'André et Catherine ont lu et qu'ils se sont demandé, est-ce que moi quand, en tant que comédien, quand on m'envoie un scénario, les rares fois où on le fait en tout cas, quand on le fait, il y a trois choses qui m'intéressent. Est-ce que l'histoire dans sa globalité me plaît? Est-ce que mon rôle dans l'histoire me plaît? Et est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice, j'aime son cinéma et je lui fais confiance pour me diriger?
Donc vous allez voir des courts-métrages si c'est un premier long, vous allez voir d'autres films de...
Exactement. Donc j'imagine que, enfin, je pense qu'il résonne pareil.
Donc vous avez vu aussi
Le troisième point, je ne connaissais pas Kéron et donc je suis allé le voir en spectacle.
D'accord.
Et ce qu'il racontait tout à l'heure après, à propos des enfants qu'il avait, où il improvise beaucoup avec eux, et que ça a eu une influence sur ses spectacles, et ça j'étais fasciné. C'est vrai que la salle est éclairée, il improvise avec tout ce qui se passe. passe, tout ce qu'ils peuvent faire ou dire les gens. Et donc là, moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est très impressionnant parce que c'est vraiment.
Et il ose rire de tout. Parce qu'il n'y a pas non plus de frontières. Mais comme c'est fait avec les personnes, le respect est là.
Complètement.
Il y a une scène à pleurer dans le film quand vous parlez aux gamins de l'importance de la bonne dentition. Lavez-vous les dents. Mon premier conseil, c'est lavez-vous les dents parce qu'une bonne dentition, c'est important. Oh, et puis, il y a un des élèves qui est noir et vous lui dites, surtout toi, tu sais, à une époque, quand t'étais esclave.
Ils vous ont déjà eu une fois.
Et on se dit, mais c'est pas possible. Et ça a pleuré de rire, en fait.
Mais tu vois, pardon, vous voyez, hier, j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui disait, ouais, j'ai vu une bande-annonce avec un film où quelqu'un qui n'est pas noir fait une vanne sur l'esclavage à un noir. J'irai pas voir ce film, c'est raciste. Je pense que vous avez tout dit dans le fait de. On ne se moque pas des Noirs, on ne se moque pas de l'esclavage. Mon personnage, il a des... Le fond est toujours bon. Il a raison, il faut se brosser les dents, c'est important. Mais la motivation pour laquelle il faut le faire, si un jour l'esclavage y revient, il faut qu'on soit prêt. Voilà, c'est débile.
Et puis surtout,
mais en même temps, c'est pas faux.
Et surtout, il y a des vannes sur tout le monde.
Sur tout le monde, bien sûr, ah ouais. Tout le monde. Il y a pas une once de racisme en moi.
Sortir une vanne en disant c'est une vanne raciste,
c'est le problème
vicieux.
De la bande-annonce aussi, c'est qu'on est obligé de.
Et tout aussi vicieux, d'ailleurs, c'est Tanguy Passion.
Transition, elle est géniale.
Mais c'est vrai qu'il le vise là.
Tanguy, le week-end donc a été marqué par le mouvement des gilets jaunes.
Oui, il y a eu les bonnets rouges, maintenant les gilets jaunes. Dès qu'il y a une révolte, elle est symbolisée par une fringue. C'est pourquoi la révolution ne viendra jamais du Cap d'Agde. Fini la légende qui dit que notre pays est celui de l'élégance. Si la télé chinoise a diffusé les images, les types là-bas ont dit à leurs femmes, bébé, annule tout. Il y a des annule Paris, il y a des rats, des ordures, les gens sont en jaune. On se casse en Tunisie. Même si on croise un mariage, il n'y aura pas autant de couleurs et ça brillera moins. 15 piges que Christina Cordula s'attaque au pire cas. En 4 heures, elle peut transformer Noël ma mère en Daddy I would like to fuck. Pour rien, puisque le jour où le peuple sort dans la rue pour manifester, il s'habille comme un sac. Et tout ça a été un immense bordel. La France ce week-end était dans le même état que le cerveau d'Ariel Dombal. Avant, une manif, c'était la CGT. 300 types à moustache de la sécurité encadraient 30 000 autres types à moustache moins musclés en leur filant à bouffer une merguez tous les 100 mètres. Arrivé à Nation, le chef, Philippe Martinez, criait « Ouais, le président, je peux vous dire qu'on lui fait peur. Il a les noisettes dans le même état que s'il s'était fait attaquer par Tic et Tac, alors que l'autre n'en avait rien à carrer. Mais chacun faisait semblant, touchait son chécos à la fin du mois. C'était comme une pièce de boulevard, mais sans amandalire, juste d'autres gens à moustache. Et là, ce sont des amateurs qui ont bloqué. Ils ont mis 4 heures à allumer un feu, là où un CGTiste fait flamber toute l'usine Goodyear, juste avec le bâton et la feuille de bananier des bleus sur Koh-Lanta. Et donc les politiques d'opposition ont ramé, mais comme des bœufs sans pattes sur l'arche de Noé, pour se faire une place dans le game, parce que les gilets jaunes les ont ubérisés, ils servent à rien. Mélenchon s'est retrouvé à brailler la Marseillaise devant l'Assemblée avec 3 de ses potes déguisés en gilets jaunes, il va finir en clown chez McDo à faire les anniversaires des gosses. Wauquiez, au Puy-en-Velay, son fief, il a fait pipi tout autour de la ville pour marquer son territoire, a passé 20 minutes avec les gilets jaunes, puis est parti dépité parce que BFM filmait Evelyne Sanchez, une anonyme en train de râler plutôt que lui. Philippot a déboulé en gilet jaune dans une manif de gilets jaunes. Résultat, personne ne l'a reconnu. Déjà, sans gilet, on le remet pas. Hein, lui, c'est Où est Charlie, sauf que personne ne le cherche parce qu'on s'en fout. Seul Dupont-Aignan a été bien accueilli parce que lui, ça fait 30 mois qu'il ne parle que du prix de l'essence. On va le retrouver au Congo, noyé dans une cuve de brut à l'arrière de l'usine Total. Le jour où on passe tous à l'électrique, c'est la fin de Dupont-Aignan. Donc, tous ces politiques qui sont anti-Macron n'arrivent à rien avec leurs partis respectifs. Donc, ils se greffent sur les gilets jaunes. Et si demain, Brigitte se barre de l'Élysée avec sa valise parce qu'elle s'est disputée avec son mari, ils la feront monter sur une barricade en hurlant bri-bri avec nous tellement ils sont à la ramasse.
Alors ce mouvement des gilets jaunes a été très suivi par les chaînes d'info.
Oui, ça a été la folie, le moindre type en jaune, elles l'ont filmé. Moi je me suis dit, Jean-Vincent Placé va venir avec son gilet au péage de Saint-Arnoult pour faire son comeback. Et le problème des chaînes d'info, c'est qu'il faut qu'il se passe des trucs sans cesse pour alimenter le machin. Donc les mecs se sont mis à interviewer, mais tout le monde. À un moment, un journaliste a dit à un type en gilet jaune, quelles sont vos revendications? L'autre a répondu, pauvre con, je suis en panne, il y a le moteur de la 306 qui a lâché. Samedi après-midi, tiens, il y a des gilets jaunes qui se sont approchés de l'Elysée. C'est passé en direct sur BFM. En studio, ils étaient aussi excités que le médecin qui aurait annoncé les résultats de son bilan sanguin, Gérard Depardieu. Hein, ils ont raté 1789 parce que BFM n'existait pas. Hein, même Drucker avait 3 ans. Donc là, ils se sont dit, on filme. Parce que si les mecs défoncent la porte, ils vont faire comme les GIs dans le palais de Saddam Hussein, vont tout fouiller. Si ça se trouve, il y a encore une photo de Benalla au fond du tiroir à chaussettes. On va faire plus de audience que quand Laetitia est venue chouiner sur la tombette Johnny. Et quand les CRS ont chargé pour faire reculer les gilets jaunes sur les chaînes d'infos, ils étaient déçus. J'ai mis CNews, j'ai cru que Bolloré en personne allait charger les flics en criant « Allez camarades, allons pendre Macron avec les tripes du patron du MEDEF ». C'est bien les chaînes d'infos parce que ce sont des médias issus de gros groupes blindés de pognon qui filment des mecs qui végètent à 1200 euros en espérant qu'ils se mettent à taper des CRS payés 1100. Hein, la morale de l'histoire, là même La Fontaine avec 12 lapins et 4 renards, on n'aurait pas trouvé. Donc le président Macron, lui, n'a pas répondu aux manifestants parce qu'il a passé le week-end en Allemagne avec Merkel, son crush. Il a fait un discours au Bundestag et a été très applaudi. Chez nous, il est haï, mais là-bas, c'est une star. Donc on devrait pouvoir faire comme au foot, des transferts. Hein, on leur filerait Macron, ils nous donneraient le groupe Tokyo Hotel, le GIGN pourrait les débriefer pour savoir pourquoi ils ont fait ça il y a 10 ans. Quant à Édouard Philippe, il était au JT de la 2 hier soir et il a dit qu'il entendait la colère mais qu'il ne changeait rien. Grosse flemme de réécrire le truc, hein, il devrait faire chroniqueur, hein, alors qu'il y a quand même une rage dans le pays. La situation est plus tendue qu'un appareil dentaire qu'on mettrait sur le prince William. Quand on demande aux gens pourquoi ils sont dans la rue, la moitié répondent on en a ras-le-bol de tout. Ça en dit long sur l'état de la nation. À moins de faire monter le Dalai Lama sur le trône de Manu dans le 8e afin que tout le monde se détende, on est mal barré. Allez, je vous laisse, je vais regarder les chaînes infos. C'est comme les télé-réalités d'Énergie 12, mais avec que des pauvres.
Merci, Tanguy Pascal. La bande originale, Mehdi, sur France Inter. Mauvaise herbe, le nouveau film de Cairon, le deuxième film avec cette qualité aussi de réalisation, j'insiste. Mais c'est vraiment bien monté, les allers-retours entre le passé presque psychologique vécu par Wael, par ce nouvel éducateur malgré lui, c'était quelque chose auquel vous teniez parce que c'est très bien réalisé, mais c'était important de voir d'où vient l'origine de la mentalité de Wael.
Oui, comme je disais, pour moi le background c'est super important, ça permet de mieux apprendre les choses et puis surtout de...
Oui, mais vous pouvez le faire avec les six adolescents aussi.
Mais... Oui, mais il y a un truc aussi, moi j'étais pas cinéphile. Quand j'ai fait mon premier film, mon spectacle marchait bien, et bien comme mes camarades humoristes, quand les spectacles marchent bien, on vient vous proposer de faire du cinéma. Et donc j'ai fait mon premier film, mais je connaissais rien au cinéma, j'avais vu 30 films dans ma vie. En faisant mon film, en parlant avec tous les professionnels qui m'entouraient, j'ai aimé le cinéma et j'ai commencé à devenir cinéphile. Sauf que j'aime plein de genres de cinéma. Et quand j'ai fait mon second film, je voulais pas faire qu'une comédie. Parce que quand on fait une comédie, malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, ce qui compte le plus, c'est le rire, c'est le rythme. Donc on fait souvent des chants contre chants, on fait des gros plans larges du visage pour avoir toutes les mimiques, pour pouvoir être efficace sur la vanne. Je voulais également faire des plans séquences, mettre des flares, mettre des travelling, d'autres effets de cinéma. Et ça, c'est des choses qu'on fait plus dans les drames. Donc les parties du passé, les flashbacks, me servent justement à mettre plus de caméras à l'épaule, des choses plus...
Donc c'était vraiment pour d'abord l'esthétisme et le plaisir cinéphile que pour alimenter l'histoire.
Les deux en même temps, ça se fait automatiquement, je me dis j'ai envie d'aller dans cette direction mais il faut le justifier, ah bah si je fais comme ça, ça va fonctionner. Mais ça se fait instinctivement, quand on voit le film on a l'impression qu'il y a des parties qui font vraiment film d'auteur. Il y a des parties qui font vraiment comédie familiale. Ouais. Et il y a même un moment qui fait film d'action.
La première scène est bouleversante. La première scène.
Merci.
Non, mais vraiment, vraiment, avec une musique enfantine.
C'est plus que la première scène, c'est carrément le générique qui se passe sur.
Vous parlez de la même chose, en fait, je pense.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, les trois premières minutes.
C'est sur Fais Dodo, je crois, en arabe.
Ouais, on l'a fait fête, ouais, exactement.
Elle est juste dingue, cette scène.
Ouais, je suis très fier de cette scène d'ouverture. Je rends hommage à l'équipe, on a beaucoup bossé pour la faire en une journée. On a tourné ça vraiment.
Enfin bref, c'est un film drôle, émouvant, intelligent, utile.
Merci beaucoup.
Bravo.
Tout ce que n'est pas Daniel Morin.
Évidemment.
Je commence à comprendre le mécanisme. Il est très bon.
Ah nom de Dieu. Allez, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un grand homme, d'un visionnaire et même, serais-je tenté de dire, d'un ami. Le sympathique Laurent Wauquiez. Eh oui, le patron des Républicains a été rendre hier une petite visite à ses amis à lui de Sens commun. Sens commun, c'est ce mouvement aussi jeune que jovial, né de la Manif pour tous, et qui voit l'œuvre de Satan dans le mariage gay. Le mariage gay, abomination, la fin de la famille, défendons nos valeurs, exterminons les homosexuels, crucifions les blasphémateurs tant qu'on y a tué les communistes, brûlons France Inter, le temple païen de la gauche assassine. Même chose pour la PMA. Chez Sens commun, on voit ça d'un très très mauvais œil. Ouh, elle
tout génocide de la famille. Satan, sort de notre société, délivre la sainte famille de tes démons de la procréation artificielle. Saint-Michel, viens pour fendre le dragon bisexuel de la gangrène gauchiste, comme tu as délivré André Dussolier qui refusait d'aller à la messe. Redonnons ces lettres de noblesse à la sainte saillie patriarcale dans le cadre de la procréation papa-maman. Je vous en supplie, répondez à mes prières, vous les deux protecteurs de la sainte famille, Saint-Jacques et Michel. Oh oui, fouettez-moi. Bref, pour sens commun, on n'est pas loin de la fin du monde. Est-ce qu'on pouvait en rajouter une couche ? Mais bien sûr que oui, n'oubliez jamais qu'avec Laurent Wauquiez, tout est possible. Devant les martyrs de sens commun, le grand patron des Républicains a balancé la comparaison du non-retour à la maison. Il a déclaré à propos de la procréation médicalement assistée, Agnès en a parlé, tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Oui, le nazisme. N'ayons pas peur des mots, le nazisme. Allez, 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 lolo, allez, lolo, allez, 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 t'es le meilleur Laurent Wauquiez. Mais il a raison, il y a des mots, on a peur des employés, mais on a tort. Quand les mots de l'impact, faut y aller, faut foncer. Tenez, la prochaine fois que je croiserai Nagui et qu'il ne me dira pas bonjour, voilà ce que je dirai à la machine à café de France Inter.
Ce matin, Nagui m'a ignoré. On sait tous ce que ça veut dire. On a déjà vu ça avant. Ça s'appelle tout simplement du négationnisme.
Oh là 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 là, l'impact de malade, le mot est lâché. Nagui ne peut plus traverser un couloir sans se prendre des insultes ou des jets de pierre, voire de chaises ou même d'armoires de bureau. Alors bien sûr, tout ça est terrible. Si Nagui ne me dit pas bonjour, ce n'est nullement du négationnisme, c'est juste qu'il ne m'aime pas, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir. Comme quoi, il y a des mots qu'il faut utiliser avec parcimonie et quand même un minimum de précaution ou tout simplement faire preuve de décence. Nazisme en fait partie, monsieur Wauquiez. À demain.
Bravo Daniel. Avec Nagui, Mauvaise Herbe, le film sort ce mercredi avec Catherine Deneuve, André Dussolier, Kairon. Tout à l'heure, vous avez expliqué, Kairon, quelles étaient, il y a donc 6 mois, 1 an, les scènes que vous n'aviez pas pu mettre dans Nous Trois ou Rien. Est-ce que c'est le cas aussi dans Mauvaise Herbe ?
En fait, là, il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface. Il y a un de mes petits, il y a quelques jours, qui me racontait...
Un de vos petits ?
Ouais, un des petits que j'ai eu, justement...
Enfants, vous parlez de vos petits comme
ça ? Non, dans le cadre de...
Que vous avez acheté ?
Non, mais...
Dans le film ou dans la vraie vie ?
Non, dans la vraie vie, quand j'étais éducateur, quand j'ai bossé, il y a un groupe à qui je donnais des cours de théâtre, etc. Et il y en a un qui m'a rappelé une anecdote que je leur avais donné des flyers de mon spectacle, des tracts de mon spectacle. Et je leur avais demandé d'aller les distribuer dans la rue. Et d'expliquer et d'essayer de convaincre les gens de venir, et s'ils venaient pas, il fallait avoir une raison et il fallait expliquer pourquoi.
C'est de l'exploitation de
mineurs. Mais en fait, clairement,
c'est de l'exploitation
d'enfants. C'est tellement illégal. Mais voilà, c'est comme mon personnage. La fin est juste, c'est pour les aider à, parce que quand tu arrives à convaincre quelqu'un dans la rue qui ne te connaît pas.
Communiquer, c'est ça.
C'est la communication. Ouais. Mais en fait, c'était pour mon bénéfice personnel, c'est tellement pas cool. Il m'a rappelé ça. Donc, si je m'en étais rappelé à l'époque où j'ai écrit le film, je l'aurais mis. Donc, il y a plein d'anecdotes qui me reviennent comme ça au fur et à mesure.
André Dussolier, j'imagine que ça doit être agréable. Aussi de tourner, d'avoir ces vannes, j'ai envie de dire, intergénérationnelles dans ce film.
Oui, parce que là, il pratique une insolence. Franchement, la manière de faire des spectacles est très, très classique chez nous, dans notre génération, quand je vois comment il fait, à quoi il pense. Non, ce qui est bien quand on fait du cinéma, c'est justement de se balader de génération en génération, d'être dans tous les styles. Et j'aime beaucoup son... comment dire, la bienveillance qu'il a, qu'il partage avec les personnages que nous jouons avec Catherine Deneuve, mais la méthode, la forme, c'est l'insolence, c'est la liberté de ton, quoi. Voilà, c'est ça qui est plaisant.
Et très rock'n'roll. André, on sait qu'il est très rock'n'roll. Ouais. Il va dans des soirées avec des blousons. Mais Catherine, super rock.
Ouais. Non, les deux, franchement, c'est un bonheur de les emmener dans cette direction-là. Ils ont joué le jeu et y a un truc aussi. C'est que...
Et vous assumez toutes les vannes faites aux uns et aux autres
parce Bien sûr, quand même... parce qu'il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a rien de... Et puis surtout, il y a...
Enfin, t'es vieille. Dis oui. Autant de fois t'es vieille à Catherine Deneuve, il y a un moment où
en
elle peut dire...
première scène, oui, elle dit courtiser, elle dit
courtiser. Oui, mais juste après...
Je pense qu'elle est au courant.
Mon personnage lui fait...
Arrête.
Mon personnage lui fait un... Mais il a raison, ça ne devrait pas être un tabou.
Oui, c'est vrai. Elle est plus jeune, ça c'est vrai.
Ça ne devrait pas être un tabou. Mais c'est non, que... Mais c'est,
je elle pas. Est ce que tu veux, mais elle est... Voilà.
Il est chatouilleux quand on parle de ses axes à chaque fois.
Non, mais c'est qu'en même temps, et Catherine et André, ils ont une posture où dans le film, c'est eux qui dominent en réalité. Quand on regarde bien jusqu'au bout, ils manipulent. Et mon personnage se fait manipuler, les enfants se font manipuler, mais les deux ne se font pas manipuler. Donc ça aussi, il y a un truc par rapport aux seniors, de... c'est pas un truc politiquement correct, mais... On est dans une société.
De respect, en tout cas.
Ouais, ouais. Moi, ça m'étonne de voir qu'on envoie ses parents, ses grands-parents dans des maisons de retraite.
C'est honteux.
Après, je juge personne. Mais pour quelqu'un qui vient d'une autre culture, ça peut paraître étrange. Et ben, y a aussi un côté, il faut les écouter, ils ont des choses à nous apprendre, ils ont vécu les mêmes choses avant nous. Donc, y a une transmission aussi à ce niveau-là.
Quant à Novecento, André, vous continuez ?
Oui, avec
plaisir. Vous poursuivez, ouais. Ça sera le 24 novembre prochain à Toulon, fin de semaine, 27 et 28 novembre à Versailles, puis du 9 janvier au 31 mars, de retour à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Ah oui, c'est un plaisir d'avoir créé ce spectacle en 2014, et puis qu'on a joué, continué à jouer avec le quartet de jazz, oui, et puis finalement, qui est toujours demandé, donc c'est un plaisir, à la fois pour l'histoire de Marico, et puis aussi, je pense, pour le spectacle lui-même, où la musique est alliée aux mots. Et donc, il y a plusieurs émotions comme ça qui sont transmises et qui fonctionnent sur le public. C'est aussi assez drôle à certains moments. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a Stéphane De Groot qui a participé à l'adaptation. Et donc, c'est un plaisir de jouer ce spectacle. Je ne peux pas résister à l'envie de le prolonger au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Et à propos de spectacle, jusqu'au 31 décembre, Kairon, vous êtes à l'Européen.
Oui, Place Clichy, je précise.
Chez vous, quoi.
Oui, oui, j'ai joué longtemps là-bas.
Ah ouais, l'Européen. Et vous serez en tournée à partir du mois de février. On va mettre toutes les dates sur Internet, février et voire mars, ça se poursuit.
Tout 2019 et tout 2020, je suis en tournée. Ouais.
Il y a toujours l'affiche avec tous les commentaires de presse et à la fin Télérama.
Ouais.
Il dit on n'a pas aimé.
C'est parfait. Non mais c'est parfait. Jean-Jacques Goldman avait fait ça aussi en prenant et puis une seule double page dans Libé où il avait mis toutes les mauvaises critiques qui avaient été faites sur sa tournée. C'était en fin de tournée. C'est incroyable. Avait simplement marqué, des centaines de milliers, le nombre de milliers de personnes qui étaient venues applaudir et de sa main. Merci d'être venu juger par vous-même.
C'est un génie.
Malgré toutes les critiques qui avaient été faites autour.
Goldman, mais
avec le nom, prénom.
Non, mais il est trop classe, ce mec, il est incroyable.
Vous serez également dans André Hussolier, dans Tanguy le Retour, d'Étienne Chatiliez. C'est fait, c'est tourné,
c'est en boîte. C'est tourné, c'est dans la boîte, oui. On a même fait la synchro récemment. Et donc, le film sortira le 10 avril. Tanguy revient.
C'est quoi, 16 ans après ?
Oui, 17 ans même, voilà. Mais il est toujours
donc,
le même.
Tanguy a 44 ans maintenant, quoi.
On est Tanguy pour la vie, hein. Oui,
oui, Tanguy, c'est ça le pitch, hein. Il revient chez ses parents.
Et oui, il a un petit souci, un gros souci même. Donc, en effet,
non, ça s'appelle un enfant. Ce que vous avez...
Oui.
Non, André a raison.
Il revient avec un enfant.
Il fait que spoiler, c'est fou.
Mais non,
c'est incroyable. C'est fou, hein. Heureusement, on n'a pas de visuel suspect ensemble.
Je veux donner.
En bref, on était tranquille.
Je suis sûr qu'il marche
porte,
avec, en voilà, fait.
Kaiser Soze, je te garantis, c'est lui.
Mais j'en suis sûr.
Tu l'as vu Game of Thrones, il peut pas.
Ouais, non, mais justement, je veux pas de.
Ça sortira le 10 avril.
Ouais.
Je vais encore spoiler, ça sortira le 10 avril.
Voilà.
Le retour de Tanguy et Mauvaise Herbe, c'est ce mercredi. C'est un très, très, très bon film. Je vous jure qu'on n'a rien spoilé du tout. J'espère simplement qu'on vous a donné envie d'aller voir ce film où il y a encore des milliers de choses à dire. Mais nous, on a des excuses à présenter.
Bien sûr. Alors, désolé pour tous les chauffeurs de taxi qui ont été abîmés, meurtris par le mépris affiché par Kairon. Alors, je m'adresse à tous les G7. Alpha Taxi, les Uber, ne prenez jamais comme client un petit barbu au regard de fourbe qui a une mémoire de poisson rouge. Il s'appelle Kairon, il ne vous aime pas. Désolé pour Kairon et toute la production du film qui ce matin a vécu un véritable accident industriel, où j'ai pas peur des mots, et ce quand Nagui a décidé de tout raconter du film. Et encore, estimez-vous heureux, il aurait pu balancer que votre personnage, Kairon, à la fin faisait l'amour à André tout en se faisant fouetter par Catherine déguisée en Reine des Neiges. Mais ouf, heureusement, il n'a rien dit.
C'est dans les bonus.
Et désolé pour nos auditeurs respectueux du fisc qui ont été choqués par la défense du mensonge et de la dissimulation incarnée par tous ces allergiques aux chiffres. Bref, ces escrocs que sont Kairon et André Dussolier. Mais enfin, les gars, soyez plus malins. Faites comme Nagui, achetez un paradis fiscal.
Je rêve.
Nos chances se réduisent comme peau de chagrin. On a le destin hitchcockien, mais les fleurs ne poussent pas plus vite en terre sainte. Souvent y'a la nature qui reprend ses droits. Lorsque tu vois mourir plus de gens que d'arbres, moi je fais de la musique qui se voit dans le noir, qui se remarque comme Catherine de Neuf qui dabe. On vient de la merde, je te le dis d'emblée.
On reconnaît bien votre voix, André, hein.
Moi je sais encaisser, je sais.
Elle arrive plus loin, sa voix.
Je suis un anarchiste qui traverse dans les clous.
Pas de mauvais air, mauvais âme, mauvais homme.
Merci Agnès Hurstel, merci Tom Villa, merci Daniel Morin, merci Leïla.
Merci Nagui.
Et comme le dit Leïla, je vous demande de nous écouter demain avec Jean-Jacques Hanau qui sera notre invité. Merci Kayron, merci André Dussolier, merci mille fois.
Merci Jean-Paul.
À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, salut les amis.
Salut Philou.
Et je vous annonce une bonne nouvelle, il n'y a pas de pub aujourd'hui.
Ah, ah très bien.
Tiens, je vais faire de l'anti-pub. Abba Roundup et vive les mauvaises herbes.
Oh bien.
Oh, joli.
Bonne émission, il est l'heure.
Ouais, salut les amis. Ciao.